Boom! Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de musique aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, man, m'a crissé mon doigt dans l'œil, comme si j'étais John Jones. Mais bon, je sais pas ce qui arrive avec le StreamYard, mais bonjour à tous. C'est le Hype Oak Podcast. Puis faites pas le saut, parce que Greg est pas là, là cette semaine. Basically, je sais pas pourquoi, mais la semaine de retour. La première semaine de l'année, ça a donné que c'est une de ces grosses, grosses semaines d'ouvrage. Puis pour vrai, ben, il n'y a pas le temps de faire toutes ces crises de liste-là que je voulais qu'il fasse. Fait que c'est pas grave. Il n'est pas là. J'ai demandé au boy Carabine de le remplacer.
Et Fifi
Moi.
Brin d'Acier, what's up tout le monde?
Tu commences ça de même. Tu me fais
J'espère
déjà
que
rire
vous êtes
dans
en
l'œil.
forme. J'ai sorti la carabine d'or aujourd'hui, les chums.
De l'année, genre?
Of the year, baby.
Holy
Of all
fuck!
time.
Holy fuck, là, j'étais excité soudainement, là.
Scoop, scoop!
Donc, si vous n'avez pas compris par le titre de la patente, puis tout, on est là aujourd'hui au Hypo Podcast récapitulatif avec un cas même, si ça vous tente, de l'année 2020. Et là, on va vous présenter nos gagnants dans toutes les incroyables catégories. On a genre 15 de quoi de même qu'on a compté avant de commencer. Fait que c'est ça. On ne perdra pas un instant de plus. Et
Let's
on va y
go.
aller. Avec notre première catégorie, le combat de l'année 2020 selon MMA Talk et Maxime Carabine. Ça va bien, je pense que j'ai le rhume encore. Ça devrait être genre 3 semaines que j'ai le rhume. Ça va être
C'est
beau.
louche.
Ouais, exactement. Mais bon, combat de l'année. Moi, j'ai fait des top 10, là. Basically, je suis pas pour toi, là. Moi, je fais des top 10, puis j'ai quelques mentions honorables. Fait que je vais y aller avec ça. Avant de commencer, les combats qui n'ont pas tout à fait la cote, mais qui étaient très bons. On a Anthony Pettis contre Cowboy Cerrone. Miguel Baeza face à Matt Brown. Brad Riddle face à Magomed Mustafayev. Song Yadong contre Marlon Vera. Daniel Miocic face à Daniel Miocic. Miocic face à Daniel Cormier 3. Rose Namajunas face à Jessica Andrade. Et un que je n'ai pas mis dans mon top 10, c'est un choix controversé. Fait qu'avant de te dire mon top 10, je vais le dire. C'est controversé que je ne l'ai pas mis là, mais je ne l'ai pas mis là. C'est Gaethje contre Ferguson. Parce que selon moi, c'était un grand moment et un très bon combat pour beaucoup de gens là, cette année. C'était pas le cas pour moi, c'était juste triste, puis la fin genre de mon rêve des 5 dernières années. Fait que j'ai éprouvé aucun plaisir avec tout ce combat-là. Là. Mais, fait que ça, c'est mes mentions honorables. Je sais pas si t'en avais, toi.
Man, écoute, on est pas mal dans la même catégorie là. Fait que moi j'ai un winner, puis j'ai une coupe de mention honorable effectivement là. Fait que si tu veux, je peux y aller avec mon number one. Commencer ça
Bon,
tout de
ouais.
suite.
Ouais, mais non, mais je vais count down mon top 10, là.
Ok, cool.
Il y
Ouais,
avait
bah
quoi?
écoute,
À
moi
part
j'ai
un
des
winner puis quelques mentions honorables, t'en as combien, genre?
Vite, vite, je vais te faire ça. J'ai à peu près 3-4 mentions honorables. C'est sûr que mon chum Dan Hooker m'a bien impressionné avec son affrontement face à le petit Paul Felder en direct de Oakland. Donc, la terre promise de Dan Hooker. Gros combat sale. C'est un de mes tops que j'ai pas pu malheureusement glisser dans mon top 1, mais ça fait partie de la gang. Jones contre Dominic Reyes. J'ai adoré ce combat-là. Dominic Reyes a donné toute une opposition. Au Johnny Bones Jones, fait que c'était fou. Puis Luque contre Price aussi. Ben aimé ça. Price qui s'est ramassé avec l'œil en pomme de terre, si je sais pas trop, là. Fait que tout un combat là avec. Puis évidemment, tous ceux que tu as nommés font partie de mon palmarès, mais ce n'est pas mon numéro un.
Yup. Donc, j'ai l'impression que cette année, si ton numéro 1, c'est pas le numéro 1, c'est comme un vol. Là. En tout cas. Mon numéro 10, moi, c'est Ricardo Lamas face à Bill Algeo. Quelle manière de finir sa carrière. Là, genre, Fight of the Year, c'était bon, c'était compétitif. Le jeune contre qui il se battait, il est arrivé, puis tu sais, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait dans ce combat-là. Puis Lamas, il a fallu qu'il dégdé pour aller sortir ce gros win-là avant de prendre sa retraite. Fait que j'ai son numéro 10. Numéro 9. Frankie Edgar face à Pedro Munhoz. Un combat qu'on a eu tendance à oublier un peu cette année, mais que c'était très, très bon. Numéro 8, t'en as parlé. La revanche Luque contre Price. Là, ça allait juste être cave comme la première fois. Puis c'était de ça. Puis c'était pour ça que ça a été fait. Numéro 8, Figueiredo face à Benavidez 1. On se rappelle qu'avant le finish, ça avait été bref ce combat-là, mais ça avait beaucoup brassé. Donc je le mets là. Numéro 6, John Jones, Dominic Reyes. Numéro 5, Dan Hooker, Paul Felder. Numéro 4, Josh Emmett, Shane Burgos. Numéro 3, Dustin Poirier, Dan Hooker. Et numéro 2, Davison Figueiredo face à Brandon Moreno. Donc, quel est ton combat de l'année, Carabine?
Moi, mon combat de l'année, Body, c'est ton number 3 sur ta liste. C'est Dan Hooker contre mon boy Dustin Poirier.
Fourette, hein?
Man, tu sais, évidemment, là, je ne te vancerai pas, mais le numéro 1 que tu vas avoir, c'est vraiment le numéro 1 par excellence. Mais je sais pas, moi, j'étais pas capable de leur donner le numéro 1 aux deux petites Charlie. Fait que j'y vais avec un Hooker Poirier parce que, man, ça a fessé dans le dash en esti 5 rondes de 25 minutes. Tu sais, c'est un combat que tu regardes pis t'as mal partout, man. T'as pas le goût que ça finisse, mon gars. Pis tu sais, je l'ai choisi au numéro 1 parce que t'as eu un petit peu de tout. Tu sais, t'as eu des amenés au sol, t'as eu des tentatives de soumission pis t'as eu un stand-up incroyable. Fait que pour moi, c'était vraiment deux strikers, deux des best du lightweight. Fait que sans aucune hésitation, devant personne en plus, tu pouvais entendre tous les coups, man. C'était écœurant, man.
Yup, donc mon numéro 1, vous avez compris que c'est Wiley Zhang contre Joanna Jędrzejczyk. C'est peut-être mon combat préféré ever, là, no shit.
Okay. Cool,
pour
man.
Vrai, là, tu sais, moi, le monde le savent, c'est probablement c'est John Jones contre Gustafsson 1, là, mon combat préféré ever. Mm-hmm. Mais c'est sûr que t'as un Lawler McDonald là-dedans pis tout, mais man, ce combat-là, il y a tout, là, t'as les momentum swings. T'as les deux filles qui mangent une quantité absolument incroyable de dommages sans jamais tomber. T'as les deux filles qui l'aiment d'une quantité absolument incroyable de dommages sans jamais tomber. Puis en tout cas,
juste ouais, mérite le number one, le gros, c'est garanti, mon gars. Puis effectivement, man, ce que j'ai aimé, c'est que, évidemment, on va tout le temps se souvenir de la tronche de Joanna à la fin du combat qui avait un hématome gros comme un pamplemousse sur le front. Puis c'est pas ça qui l'a empêché de continuer. Là, je me souviens à Lander spinning back fist à toute fin du combat qui était incroyable, même si elle voyait plus rien. Est-ce-t-il. Puis même Wiley Zhang était tellement amoché, elle n'a pas arrêté, mon gars. Fait que très bon choix, mon Faber.
Non, je pense que c'est un no-brainer pour cette année. Moi, personnellement, c'est mon fight of the year. Puis comme j'ai dit, peut-être mon fight préféré ever. Là. Genre, un fight qu'au moins une fois de temps en temps, je vais comme prendre un 25 minutes pour réécouter. Ce qui, on dirait, plus que je deviens un fan de MMA, plus que c'est rare, genre, que je prends 25 minutes pour aller réécouter un vieux fight. Mm-hmm. Parce que j'ai tellement de nouveaux fights à comme analyser, me préparer pour que j'ai vraiment le temps de faire ça, mais ça, c'en est un que genre, je vais faire ça avec plaisir, là, pis c'est ça. Que...
Yeah, man.
Donc, on va passer au knockout de l'année. Selon moi, un autre no-brainer.
Ouais.
Puis, j'irai pas avec des mentions honorables ici parce que j'avais comme genre, mettons, 30 KO en liste, là.
T'en avais une coupe.
Fait que c'est ça, je vais pas y aller dans les mentions honorables, puis tout, ça durera pas. Toi, t'as ça encore comme ton number one avec quelques mentions?
C'est exact, mon gars. J'ai fait, ça a été mon modèle.
Ton modus operandi.
Yes, sir.
Excellent, donc je vais y aller avec mon top 10. Au numéro 10, Davison Figueiredo face à Joseph Benavidez. Le 1, bien sûr, parce que le 2, ça a été une soumission. Tu sais, ce combat-là, on s'en rappelle beaucoup pour genre le coup de tête, là, puis ce qui a changé le combat, mais je pense que le monde a tendance à oublier comment la main droite qu'il a landée après le coup de tête était clean, là, mais clean à l'os. Yeah. Fait que je le mets au 10e rang pour ça. Au 9e rang, Benil Dariush. Contre Scott Holtzman, le spinning back fist. Oui, il a la main gauche absolument ridicule contre Dragon Close. Là, on va revenir sur ce combat-là, d'ailleurs, probablement. Là.
Oh oui.
Enfin, je vais revenir sur ce combat-là, assurément. Mais bref, c'est le spinning back fist que je mets dans le KO de l'année parce que c'était complètement ridicule. Ensuite, la main droite de Calvin Kattar face à Jeremy Stephens. J'ai ça au numéro 8. Numéro 7, Kevin Holland. Jacare, punch d'en dessous, là, c'était complètement ridicule. J'ai l'impression que si Nico Price avait jamais fait ça, ça serait plus haut sur la liste.
Okay.
Mais cette année, man, il y a eu des knockouts complètement fous, dont mon numéro 6 sur la même carte, Raphaël Fiziev face à Renato Moicano, là, la combinaison là, qui commence avec le body punch, qui finit ça avec deux crochets, le dernier qui passe flush. C'est comme magnifique, c'est smooth. C'est rare qu'on voit un knockout par combinaison, que les trois punchs, ils l'aiment vraiment clean. Puis, c'est vraiment quelque chose de next level, selon moi. Ensuite, au numéro 5, Sean O'Malley, Eddie Wineland, le walk-off KO, là, c'est complètement fou. Évidemment, au numéro 4, Khamzat Chimaev face à Gerald Meerschaert. Au numéro 3, pour vrai, le top 3, là, n'importe lequel aurait pu être numéro 1 s'il n'y avait pas eu le numéro 1, évidemment, là, que vous attendez peut-être un peu à ce que je m'en vais dire. Mais au numéro 3, c'est Cody Garbrandt face à Rafael Assunção, là. Le genre de knockout qui est parti le punch d'affaire tellement qu'il était plié, là, puis tout le cork dans son corps, complètement ridicule.
Il restait plus tard, en plus, il me semble que c'était à fin du round.
C'est ça, exactement. Et au numéro 2, ben, j'ai pas le choix de le donner à mon boy Johan Lennes face à Lirim Rufati au CFFC 86, c'est son flying knee. Donc,
Et voilà, ouais, fait que évidemment. Les petits jeunes, pardon, mon countdown, ça va se retrouver un petit peu dans qu'est-ce que tu m'as dit là. J'ai adoré le KO de Kevin Holland sur Jacare Souza, du jamais vu. C'était un petit peu différent de qu'est-ce que notre boy Nico Price avait fait que c'est quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Cater face à Stevens, je m'attendais pas à ça. Je pense que Stevens était peut-être le favori dans ce combat-là, puis il s'est fait complètement allumer par le petit gars de Boston. Figueiredo contre Benavidez, évidemment, quelque chose de lourd, quelque chose de très lourd, pas mal. On a notre boy Chaos Williams, je pense que t'as pas mentionné, là, mais son One Punch KO contre...
Alassane, ouais.
Yes, c'est contre Alassane. C'était du solide, après 30 secondes, je pense qu'il termine ça comme ça. Mais sinon, moi, mon numéro 1, tu l'as nommé, c'est ton numéro 4, je crois. Puis j'ai choisi Khamzat Chimaev, parce que pour moi, c'est pas seulement un One Punch KO face à un opposant qui était supposément un petit peu meilleur que les deux qu'il avait affronté auparavant, mais c'est tout le build-up de Khamzat Chimaev. Puis on était tellement embarqué dans lui, puis on s'attendait pas à ce qu'il puisse finir le combo aussi rapidement que ça. Puis tu le vois contrôler l'octogone, t'as un piège à Gerald Meerschaert qui s'en va dans un coin, one punch, bam, c'est fini. Fait que pour moi, il y a lift to the hype. Ça, c'est mon KO de l'année, c'est Chimaev face à Gerald Meerschaert.
Ah, yep. Il fallait changer d'account pour avoir les en tout cas.
No stress.
Pas grave. Donc, au numéro 1 des knockouts de l'année selon MMA Talk, vous aurez bien compris que j'ai choisi le dénommé Joaquin Buckley face à Impa Kasanganay. Du jamais vu, ça a fait le tour. Tout le monde l'a vu. Là. Tout le monde l'a vu. Ma mère a vu ça. Mon père l'a vu. Ma soeur a vu ça. Tout le monde l'a vu.
Ça.
Fait que, genre, on n'a pas le choix d'y donner, man, sur le genre, once in a lifetime knockout, là, le gars qui attrape, qui se fait attraper son kick, puis qui s'en sert pour spinner dans un autre kick. Genre, complètement ridicule, là. Donc, c'est le knockout de l'année, et de loin, là, selon moi.
Probablement le knockout de la décennie, là, fait que...
Oh, ouais,
on se tiendra pas longtemps là-dessus, mon Faber. Quel KO incroyable, une technique venue des cieux, une carabine d'or bien méritée, tout ce que tu veux, mon jeune.
La soumission de l'année, là, tu rentres dans mon domaine, OK?
Yeah, ça, jiu-jitsu. Là,
je commence à m'exciter comme un petit enfant. Et puis, évidemment, j'ai comme 40 choix sur ma liste. Fait que je vais y aller juste avec un top 10 encore une fois aussi. En commençant avec au numéro 10, Thiago Moises, le seul, l'unique, face à Michael Johnson. Je pense dans le record book, ils ont dit c'est un heel look pis tout, mais gros, gars, je connais mon Jou, je l'ai vu à technique. C'est une clé de cheville. Le gars, il a passé une tabarnak de clé de cheville. Puis passer ça dans l'UFC à un gars que oui, c'est Michael Johnson, mais c'est quand même Michael Johnson, tu comprends? Michael Johnson ne serait pas Michael Johnson s'il n'avait pas genre déjà battu comme Tony Ferguson puis des gars de même, même s'il perd contre à peu près n'importe qui à Star, tu sais. Fait que, gros move, et grosse soumission, puis je donne le numéro 10. Au numéro 9, c'est Jacques Hermanson face à Kelvin Gastelum. Un petit look, c'est-tu bien pin à le début du combat de même, ça n'a pas niaisé. Fait que good job à lui pour ça. Au numéro 8, Aljamain Sterling contre Corey Sandhagen. J'aime pas ça trop crissé genre un rear naked choke ben straight là, dans mes soumissions de l'année de même, mais la façon dont dès le début du combat, dès qu'il y a eu genre une interaction dans le clinch, Aljamain s'est téléporté dans son dos debout, il a sink in le choke, puis c'était super slick, puis on a vu par les performances d'après de Corey Sandhagen que c'est comme pas vraiment quelque chose qui va réarriver.
Exact.
Fait que le fait qu'il ait réussi à faire ça à Corey Sandhagen, de la façon dont il l'a fait, je pense que ça mérite une mention là, dans les soumissions de l'année.
100%.
Ensuite, au numéro 7, Chase Hooper face à Peter Barrett. Un autre combat sur lequel on va nécessairement revenir. Hail Mary E-Look à la fin. Ensuite, au numéro 6, on a AJ McKee qui a inventé une soumission face à Darren Caldwell. C'est un neck crank, là, basically, ce qu'il a fait, mais de la manière dont il est allé le chercher, comme dans une genre de position que tu vas chercher une guillotine d'habitude. Lui, il faisait complètement autre chose. Puis je pense que c'était probablement la seule personne sur la terre qui savait où il voulait s'en aller avec ce move-là. Fait que, tu sais, je peux même pas. C'est vrai que Darren Caldwell, il y a un peu peut-être la réputation du lutteur qui se fait soumettre, là, mais je peux même pas comme le blâmer de s'être fait soumettre là-dessus. C'était complètement sorti du left field. Puis le fait que tu peux pull out un move de même là, dans une compétition de haut niveau comme un combat contre Darren Caldwell là, qui est très bon, ben c'est assez exceptionnel. Merci. Donc, numéro 6. Le numéro 5, c'est le chum Gonzalez face à Pat Sabatini au CFFC 81. Le gars est allé chercher un omoplata, basically, puis il a décidé de finir ça en Kimura. C'était excessivement spectaculaire. Là. Il y a une vidéo sur ça, sur UFC Fight Pass ou sur les internets, là, c'est disponible. Fait qu'aller checker ça, cette petite soumission-là, c'était vraiment fou. Au numéro 4, c'est tellement bâtard que ce soit arrivé de même, mais le fait qu'il a été capable de transformer un kick attrapé en flying triangle, j'ai pas le choix de le crisser sur la liste. C'est le boy Jimmy Flick face à Cody Durden.
Jimmy!
Ensuite, top 3, c'est du gros shit, genre du gros shit solide. Au numéro 3, j'ai Davison Figueiredo face à Alex Perez. Genre, man, le fait que, genre, toute la transition, le defer takedown en roulant pour un knee bar, puis basically, se fait, enculé, straight up, donne son dos. Puis c'est en donnant son dos qu'il vient se pogner un frame puis se revire dans une Armin guillotine. J'avais jamais vu ça, ce genre de transition-là. Puis c'est risqué de faire ça. Là. On s'entend,
absolument, man.
C'est pas des moves que tu fais bien casual. C'est super risqué de faire ça. Puis il a réussi, puis c'était magnifique. Fait que je l'ai au numéro 3.
D'après moi, c'est dans son game plan, man. C'est à Figgy.
D'après moi, ouais, être cave et risqué, c'est clairement dans son game plan. On l'a vu dans le combat contre ouais. Moreno. Mais oui, et puis au numéro 2, man, c'est vraiment. Écoute, je l'ai réécouté aujourd'hui. Puis cette soumission-là me fait mal au cœur tellement qu'elle était violente. C'est le knee bar de Ariane Lipski face à Luana Carolina. Genre, carrément assisuelle, puis elle crisse toutes ses hanches dans les genoux. Puis tu vois, genre, la jambe qui est pliée dans le mauvais sens. Puis. Tu sais, souvent, un knee-bar, tu roules puis tu finis ça comme plus comme un armbar au sol. Mais là, le fait qu'elle était assise sur elle puis qu'on voyait genre l'angle que le genou prenait, c'était genre une des soumissions les plus graphiques de l'année, là, de loin. Fait que,
Queen of Violence.
Mais, hein, fait que je mets ça au numéro 2 puis je reviens avec mon numéro 1 après que Carabine nous ait mentionné ses choix de soumission de l'année.
Ben, une qu'on a vue il n'y a pas trop longtemps, c'est mon petit Chase Hooper face à Barrett. Un gros heel hook sale, il nous a montré qu'il savait ce qu'il faisait. Je pense qu'il a juste pris deux tentatives avant de finir ça à Barrett. Fait que gros Charlotte à lui. Évidemment, la soumission de Mackie dans Bellator, ça m'a vraiment surpris. Oui, t'as le neck crank, mais tu sais, en même temps, avec ses jambes, il est en train d'y étirer le spine, là, comment tu dis
ça? Ouais, spine? C'est ça. Ben, que le fait que tout son corps soit dans le mouvement, là, que genre, il vient créer de la séparation là, puis il torque vers le cou, fait qu'il étire, puis il torque, ça devait être genre assez désagréable.
Ah, ça devait être. Tu sais, c'est un espèce de twister, mais d'une autre dimension, là, fait que.
C'est pertinemment que Darian Caldwell, quand le move a commencé, il s'est dit dans sa tête, no way que je tape là-dessus, moi. Puis ça
s'est
rendu à un point où il n'y a pas eu le choix.
Ouais, exactement, man. Évidemment, ton numéro 1 fait partie de mes préférés aussi, mais comme aujourd'hui, je prends la place de Greg GSP, j'ai pas le choix d'y faire honneur d'y faire honneur, et de choisir Ariana Lipski, comme tu viens de le parler, c'était très graphique. La pauvre Carolina qui s'est faite exploser le genou. Tu sais, une soumission comme ça, là, t'as tellement pas besoin de tirer beaucoup sur le genou pour que ça fasse mal. Puis elle est encore un petit pouce de plus. Là, fait que la fille, elle s'est même pas rebattue, Carolina. Là, d'après moi, elle est hypothéquée pour un petit bout. Là, fait que j'ai pas le choix de donner la carabine d'or soumission de l'année à Ariana Lipski.
Oh yeah! Et puis, au numéro 1, genre une des plus belles transitions que j'ai vues de toute ma vie.
Même. En se faisant péter un orteil, en plus.
Là, du full mount assis sur son adversaire, à une tentative de arm triangle choke, juste pour isoler le bras, puis passer sa jambe, aller chercher le triangle, la montée complète, pull en dessous de Justin Gaethje, aller chercher la jambe, puis finir ça. Genre, faire taper la personne que tout le monde se dit, hey, Justin Gaethje, si tu veux le battre, faut-tu le knock out cold ou tu l'endommes. Mm-hmm. C'est les deux seules façons de le battre. Puis Khabib, il était capable de le pogner dans une soumission qui était comme... Puis, tu sais, je comprends en plus Justin Gaethje. Genre, tu sais, souvent tu dis à lui, il faudrait que tu l'endommes, il faudrait que tu... Mais ton corps, il y a comme... À moins que tu sois pogné dans un blood choke, vraiment, c'est dur de pas taper sur une soumission. Là. Genre un triangle, mettons, quelque chose, n'importe quoi qui n'est pas un choke sanguin. Les chokes sanguins, des fois, c'est juste que tu te bats contre le choke et tu n'as pas vraiment de misère à respirer parce que ce n'est pas un choke genre de souffle, vraiment, c'est un choke de sang. Fait que tu respires puis tu te défends puis là, tu penses que tu es correct pour un moment donné, tu n'as plus de son cerveau puis tu te réveilles. Tu es genre, the fuck, les gars, qu'est-ce qui est arrivé? Un choke comme le triangle de Khabib, c'était. Oui, c'est sanguin parce que c'est tête pis tout, mais c'est aussi un choke genre de respiration. Puis t'as comme un mécanisme de défense quand t'es plus capable de respirer pendant trop longtemps que de tu sais, gros, de taper, là, straight up. Pis c'est le truc qui vient naturellement, puis tu peux dire non, moi, je taperai pas là-dessus, tu comprends? Genre, pis.
Toi, tu penses qu'il tapait, Gaethje?
Oh, il tapait, man. Il tapait. C'était tight as fuck. C'est sûr qu'il tapait. Puis oui, il a passé à la fin parce que le ref était pas trop sûr, pis tu sais, mais. Il tapait là, 100% selon moi, puis il a fait taper Justin Gaethje, la personne qu'on pensait jamais qu'il allait taper. Puis c'est pas genre, il l'a fait taper, fait que Gaethje est plus faible qu'on pensait. Non, au contraire, la technique était juste incroyable. La technique était belle, elle était tight, elle était genre précise. C'était tout ce que tu veux d'un esti de belle soumission. Puis,
ben genre, oui, mais la preuve, c'est que ça a pris 2 secondes avant qu'il s'endorme, Gaethje. Là, des fois,
ben non, tu vois, quand t'es en train de taper, puis là, tu le lâches, puis le gars, il sleep, genre, quasiment en tapant, c'est parce que genre,
c'était tight.
Ta tête.
Yes, oh, ouais, grosse mention à mon boy Khabib, ça c'est sûr, man.
On passe au comeback win de l'année, le retour en arrière. Le gars qui se faisait complètement péter sa petite gueule de con, man, puis que finalement il a réussi à gagner ce combat-là. J'ai 3 mentions honorables.
Yes, sir.
Sabina Mazo face à Justine Quiche, la maître de la quiche. Celle qui avait chié à terre contre on s'en rappellera tous. Ensuite, c'est Ignat contre O'Gorman. C'était au Cage Warriors 113. C'était avant la pandémie. Je m'en rappelle comme brièvement de ce combat-là. J'ai pas pris la peine d'aller le réécouter, mais je me rappelle que le pauvre O'Gorman a littéralement genre décollé Ignat comme c'est même pas possible. Puis il a fini par perdre, mon gars. C'est quand... il s'est fait pogner, man, le pauvre. Fait qu'en tout cas, je me demande de rabattre ça. Et John Jones face à Dominic Reyes, parce que ce qu'on se rappelle moins souvent de ce combat-là, c'est à quel point John Jones a fait un comeback dans les 2 derniers rounds pour ne pas perdre, selon les juges, ou du moins rendre ça comme assez serré pour que la question se pose. Parce que si tu regardais les premiers rounds de ce combat-là, c'était all Reyes. Là. Fait que John Jones quand même sorti un bon comeback dans ce combat-là, qui est allé lui donner la victoire au final. Je pense que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec le fait qu'il a gagné ce combat-là. Mais sur papier, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est un comeback win là, de la part de John Jones.
Ce qui a fait en sorte, en plus, qu'il est monté d'une catégorie en plus, là, tu sais.
Ouais, exactement.
Reyes l'a tellement éclaté qu'il a dit, moi, je m'en vais en haut, c'est-tu.
Mais en bat contre les heavyweights. Ceci étant dit, mon top 10, au numéro 10, j'ai Julian Erosa contre Charles Woodson. Écoute, le gars qui devrait même pas vraiment être dans l'UFC, là. Il s'est fait couper puis tout, puis il y a un short notice call, il l'a pris pour revenir, puis il est arrivé, puis il a battu le gros prospect avec la grosse tête. Est-ce vraiment quelqu'un qui a une plus grosse tête que Sean Woodson?
I don't think so.
Mais bref, en tout cas, il y a Erosa
Gaillis. Sean O'Malley peut-être, mais c'est un autre genre de grosse tête.
Ouais, exactement. Donc, au numéro 9, j'ai Thiago Moises, Michael Johnson. On en a parlé. Classique Michael Johnson. C'est pour ça que c'est pas plus haut. Là. C'est genre, checkez ça, je suis Michael Johnson. Je gagne. Oh, fucking Klitschewski, il faudrait que je tape. Gros crise de classique. Au numéro 8, un autre qui malheureusement devient de plus en plus classique aussi, c'est Mirsad Bektic qui paye, man. C'est Mirsad Bektic qui paye. C'est tellement... Genre, le gars manque de jus dans ses combats. Il est là à dominer ses adversaires, puis ça marche pas pour lui. Puis là, pourquoi j'oublie le prénom du gars contre qui s'est battu, man?
C'est de Leech, ça?
Ouais, le Leech de Jackson, mais c'est un esti nom
Damon. Commun. Damon?
Exactement, ça. Damon Jackson, un esti nom commun. Je venais de pull up le topology, justement. Puis le Calis, les gars, il l'a soumis, man. C'est ça qui est arrivé avec une guillotine, puis... Comme je dis, ça s'en vient un peu classique, là, malheureusement, pour Mirsad Bektic de comme gagner ses combats jusqu'à temps qu'il manque de jus, puis après de perdre. Genre. Fait que.
Ouais, c'est, man, c'est un bon prospect qui n'a pas eu une bonne année 2020, ça c'est sûr.
Non, puis genre, en tout cas, je sais même plus si c'est un prospect pour lui, dans son cas, là, malheureusement, là, parce qu'il a vraiment un beau style, c'est un bon combattant, puis tout, mais.
Je pense qu'il a pris le combat à 5 jours de.
Ouais, c'est ça. C'est un autre justement qui arrive sur short notice puis qui vient gagner ce combat-là. Un autre comeback va à Jordan Griffin face à TJ Brown. Ça, j'aurais pu le mettre dans mes soumissions de l'année aussi. TJ Brown, il pétait à gueule debout. Il faisait des takedowns. Il pétait à gueule au sol. Il n'y a aucun problème. Maintenant, il s'est fait pogner dans une guillotine. Il est passé du bon côté. Genre, il a réussi à sortir de la guillotine, puis il était rendu en side control, mais pour une raison ou une autre. Genre, Griffin, il a réussi à s'ajuster, puis il l'a sleep. Il l'a basically sleep du side control en dessous avec une guillotine dans un combat qu'il perdait à 1000%. Donc, gros comeback pour Jordan Griffin. Probablement une de ses seules victoires dans l'UFC aussi, mais bon. Shout out à lui pour ça.
Une de plus que moi, puis toi.
Exactement, mon boy. Au numéro 6, on a Alistair Overeem qui est encore capable face à Augusto Sakai. Gagnait pas pantoute. Puis un moment donné, hey, je l'amène au sol puis je casse la gueule. Je pense que je vais gagner ce combat-là. Puis c'est ça qu'il a fait. Puis Chris, ça a marché. Fait que je suis à lui pour ça. Puis là, on rentre dans des esti shit show, man, d'un certain côté, là, je te dirais. Avec mon numéro 5 qui est Benil Darius Drakkar Close. C'est le plus positif du côté shit show là, que tu vas retrouver. Là, genre deux gars qui. C'est genre une version, je veux pas dire Dolorama, mais presque une version Dolorama de Pat Barry contre Shake Congo. Là. C'est les deux gars qui se rock back and forth. T'en as un qui est sûr d'avoir fini l'autre, fait qu'il devient un peu over-eager. Puis le bang, c'est lui qui se fait rock. Puis finalement, c'est lui qui se fait finir ben raide.
Exact.
Fait que gros comeback de Benil Darius. Je pense que ça s'est tout passé à l'instant, de genre quelques secondes dans le combat aussi.
Début du deuxième round, ouais.
Ouais, fait que c'est ça. Je le mets là. Ensuite. C'est un huge comeback. J'aurais vraiment aimé le mettre plus haut, mais vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas le mettre plus haut. C'est le chum Dave Herman face à Mike Rodriguez. Puis pourquoi je ne peux pas le mettre plus haut? C'est à cause du ref. Là. Parce qu'on le sait tout, on va revenir dans les pays décisions de l'année. Herman s'est fait TKO là, dans ce combat-là par Rodriguez. Là. C'est absolument fait TKO, mais l'arbitre peut penser ça comme un nut shot. Il a réussi à récupérer de ce notre shot là, puis il a gagné le combat, basically. Fait que c'est un huge comeback win. Là. C'est probablement le comeback win de l'année, selon moi.
Il y a eu deux combats en un, tu sais, dans le fond.
Ouais, mais le fait que le gars s'est fait finir, genre, logiquement, je peux pas dire, ah oui, t'as le comeback de l'année, mon chum, parce que ce combat-là, selon moi, ben, il l'a perdu, tu sais. Puis il aurait pas dû avoir la chance de faire ce comeback-là. Il l'a eu, puis ça a donné ce que ça a donné, fait que j'ai pas le choix de le mettre sur la liste, mais je suis pas d'accord. T'sais. Fait que c'est pour ça que je le mets juste au quatrième rang. Ensuite, au troisième rang, en théorie, c'est même plus un comeback win parce que ce combat-là est rendu un no contest parce que le très méchant Trevin Jones a fumé du weed. Là.
Pis, à quoi qu'il a pensé?
Non, à quoi qu'il a pensé, cette cave, tu sais. Mais Surtout, je trouve ça BS parce que je savais que c'était un short notice quelques jours d'avance. C'est le pauvre Trevin Jones qui arrive là. Il n'y a même pas une belle fiche. Tout le monde, personne ne sait c'est qui. Il se bat contre Timur Valiev qui, c'est des années qu'on l'attend dans l'UFC. Puis là, il se fait péter à la gueule, mon gars. Il se fait péter à la gueule tellement que l'arbitre est à ça d'arrêter le combat. Pas à une reprise, à deux reprises.
Show me something.
Non, exactement. Puis il n'arrête pas le combat finalement. Puis Jones réussit à lander un punch miracle. Puis gagne le combat. Genre, énorme comeback win. Malheureusement, comme j'ai dit, il avait fumé du pot. Puis ça a été overturned par la commission athlétique. Ce que je trouve tellement con parce que. Quand le gars, il apprend genre 3-4 jours avant le combat qu'il va se battre, c'est sûr qu'il n'a pas eu le temps d'arrêter de fumer du pot assez longtemps pour ne pas tester positif. Fait que je pense que ces gars-là devraient recevoir une exemption là, dans ces cas-là pour pouvoir retirer leur victoire comme ça. Mais vu que c'est pour du pot, c'est pas pour aucune substance dopante ni rien, ben, je vais lui donner là, son comeback win à Trevin Jones puis je vais le mettre au troisième rang.
Bien
au deuxième rang, c'est... sur la même calice de cartes, une de nos grandes découvertes de l'année, Daniel Rodriguez face à Dwight Grant. Le même scénario que Jones contre Valiev. Rodriguez in all kinds of troubles là, dans le début du combat. Se fait marteler, se passe proche de se faire finir. L'arbitre est à ça d'arrêter le combat. Encore le même crise de ref d'ailleurs. Là. On tient à noter le même crise de ref. Et puis... arrête pas le combat, Rodriguez se relève, commence à varger sur Dwight Grant, puis le contre la cage lend un bon flurry qui drop le carrément Dwight Grant. Puis peut-être un stoppage un peu hâtif par rapport à la volée que l'arbitre a laissé Rodriguez manger avant d'arrêter le combat. Mais Chris, c'est quand
c'est
même...
Chris Tognoni, hein?
Oh yeah, Chris Tognoni. Mais c'est ça, regarde. Rodriguez s'est fait pétailler comme un bon, il a réussi à comeback, à aller chercher le win. Fait qu'on on peut pas y enlever ça. C'est pas de la faute. C'est jamais de la faute du fighter quand le ref fait son imbécile. Quand le ref, genre, fait un call de marde. Fait qu'il faut donner à Daniel Rodriguez qui revient à Daniel Rodriguez. C'est un huge comeback win. Fait que c'est
à D-Rod, baby. Yep. Ben oui, j'enchaîne avec ça, les boys and girls. Évidemment, Moutou, UFC on ESPN 15, c'est là qu'on a vu les plus beaux comebacks de l'année, comme mon cher Faber vient de le dire. Rodriguez et Jones ont fait des remontées extraordinaires. Mais moi, j'ai bien aimé Overeem face à Sakai, parce que t'avais le vieux Overeem, tout le monde disait qu'il était fini, puis t'avais le jeune Sakai, le jeune Brésilien, tout le monde le voyait sur la pente montante, puis finalement, comme tu as dit, ben ça, quand Overeem s'est dit, je suis capable de l'amener au sol, puis de le détruire complètement avec mes coudes, j'ai vraiment été impressionné. Super gros gars, Alistair Overeem, a connu une très belle année 2020, fait que fait partie de mes mentions honorables pour le comeback of the year. Évidemment, j'en parlerai pas trop parce que ça s'en vient, mais Chase Hooper m'a bien surpris aussi. Mais moi, mon number one, j'ai été un petit peu biaisé par toutes les publicités, tu sais, entourant le best of the year de UFC, puis tout, Benil Dariush face à Drakkar Klose, en plus d'avoir deux des noms les plus G de la UFC, ils l'ont montré tout Drakkar, le temps.
Man.
Drakkar, gros, man, tu sais. Le gars, il vient même pas de Bécamo, en plus, tu sais, puis je l'ai vu, le gros, à maintes et maintes reprises, puis là, je suis allé le revoir, puis tu sais, ça, je vais t'expliquer la séquence, là, je viens de le regarder, le début du deuxième round, premier round, je pense que tout le monde le donnait justement à Drakkar. Benil, il a fini sur le dos, puis Drakkar il était debout, puis il foutait des coups de coude. Benil Dariush avait même pas l'air dans le combat. Deuxième round, il est fatigué. Tu vois que Drakkar close, il y a bien de la sauce encore. Puis là, t'as Dariush qui fait un low blow, pack un petit coup d'un gosse, tu sais, semi voulu. J'ai l'impression quasiment qu'il a voulu avoir une petite pause, tu sais, parce que là, tu vois le ref qui va voir Drakkar close, puis là, Drakkar il est comme non, on n'arrête pas ça, j'ai le lead. Là, il enchaîne une grosse droite sur Benil Dariush. Dariush est étourdi un petit peu, il s'en va sur la cage. Le Drakkar, il sent le finish bien raide, il s'approche, puis si c'est un fake, mon chum Benil Dariush, t'enchaîne ça, c'est une petite droite. Puis là, tu vois Drakkar qui recule, là, il patine un petit peu sur ses jambes, il a perdu la carte bien raide. Benil Dariush te finit ça avec une grosse droite, une grosse gauche. Il a couché Drakkar close, fait que c'est pour ça que c'est mon comeback of the year. Benil Dariush, toute la combinaison, excellent 50 secondes.
Yup. Puis mon numéro 1, ben c'est le Hail Mary de Chase Hooper face à Peter Barrett. Autant, je me suis dit non impressionné un peu par sa performance. T'sais, lorsqu'on en a parlé là, après la carte, là, justement, sur l'Hypoke Podcast avec Greg, mais j'ai pas le choix de lui donner. C'était un huge comeback. C'était un combat qui était en train de ne pas gagner. Genre, chaque seconde de ce combat-là, il ne gagnait pas. Jusqu'à temps qu'il se pitch sur une jambe. Puis ça, c'est comme tu as dit tantôt, ça n'a vraiment pas été long comment. T'sais, genre, Barrett s'est retrouvé de vraiment. Un peu dans la merde, à beaucoup dans la merde, à genre, il n'y a pas de manière de s'en sortir, et très rapidement. Fait que ça prouve juste que Chase Hooper, c'est un, vraiment un excellent grappler, que genre, un X-Factor card, là, carrément au sol, là, le gars, il va se pitcher sur tes jambes, va se pitcher sur n'importe quoi, puis, tu sais, va probablement être en mesure de te soumettre. Le fait qu'à son âge, il soit capable de manger ce volet-là, puis survivre, puis aller chercher le knockout, c'est assez impressionnant. Ça fait peur aussi, je te dirais.
Ben oui, parce que Barrett, c'est pas un gros cogneur, ben, là, tu sais.
Non, c'est ça, puis c'est vraiment fait péter la gueule par ce qui est, selon moi, pas mal un des combattants les plus bas niveau que tu vas retrouver dans, tu sais, dans l'UFC, là, c'est plate à dire, là, j'ai assis sur ma chaise ici aujourd'hui de vous dire des affaires de même, mais... Genre, c'est ça qui est ça. Là,
Peter on n'enlève rien, mais il est dans la meilleure ligue au monde.
Ah oui, c'est ça. C'est dans la meilleure ligue au monde, mais ça ne va pas gagner aucun titre ni rien. Là. C'est pas vers là que ça s'en va pour lui, malheureusement. Fait que, Hooper a réussi à gagner ça. Huge comeback, man. Shout out à lui pour ça. Je lui donne la palme, si.
À un si jeune âge en plus, c'est assez impressionnant. Là, il s'est fait péter ben raide. Là. Il aurait pu faire un petit peu comme notre boy Gordon face à Sumo Derji, puis se coucher à terre et dire « Non, merci, prochain combat. » Mais il a continué, man. Il savait qu'il avait confiance en ses moyens, gros, puis il est allé d'un heel hook incroyable qui avait l'air de faire mal en simonac.
Le pire avec le heel hook, c'est quand ça fait mal, il est trop tard. C'est un move que des fois, il te fait même pas mal. Mais tu sens juste comme un inconfort là, au niveau de tes ligaments dans ton genou. T'es genre, on m'a tapé direct là, j'ai pas envie de ressentir ça. Quand ça devient te faire mal, un look est vraiment, vraiment trop tard. Shout out à Hooper pour ça.
Yep.
Et on va y aller avec l'upset de l'année. Ça, c'est la plus grande surprise, la victoire la plus inattendue, où c'est genre, mettons, le plus gros underdog qui a battu un énorme favori. Donc, j'ai une couple de mentions honorables ici, là, je pense, qui valent la peine d'être mentionnées. On a Daniel Rodriguez encore, lui, face à Tim Means. Shayna Dobson face à Maria Agapova. Je le sais que ça, là, en termes de odds, c'est peut-être le plus gros upset de l'année. Mais je comprends pas pourquoi Agapova arrivait à moins 1000 favorites là, dans un combat dans l'UFC. Quand elle avait gagné son premier combat de façon dominante, mais il n'y a pas rien qui nous montrait vraiment que la pitoune c'était la réincarnation de Jésus ni rien. Là. Fait que, genre, je pense que c'est plus les odds makers qui se sont biaisés dans ce combat-là que d'autres choses.
Faute de frappe.
Ouais, exactement. Bien que tu sais, Agapova se méritait là, d'être favori face à Shayna Dobson, mais la manière dont était favorite, je pense pas que c'était fair. Bref, Munir Lazez contre Abdul Radak Alassane, Justin James face à Frank Camacho et Daniel Pineda face à Herbert Burns sont mes mentions honorables au numéro 10. C'est Joel Alvarez. Qui ça? Oui, Joel Alvarez face à Joe Duffy. Si tu m'avais dit ça il y a 2 ans qu'il y avait un quelconque espagnol de 6 pieds 2 à 155 livres qui allait genre péter Joe Duffy comme s'il était de la merde, je n'allais pas te croire. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé à Alice. Au numéro 10, Lerone Murphy face à Ricardo Ramos. Écoute, Lerone Murphy, il était vraiment très bon. On l'a vu dans son premier combat contre Zubaira Tukukov. Il nous a montré des très belles choses. Je me disais ça, c'est un prospect. Là. C'est un prospect. Tabarnouche, je me le dis. C'est un prospect à surveiller pour la suite des choses, mais je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il pète Ricardo Ramos. Là, son deuxième combat dans l'UFC comme ça, de battre un gars comme Ricardo Ramos qui a des grosses victoires contre d'excellents combattants et qui perd juste contre, mettons, Saïd Nurmagomedov et des gars comme ça. Ça te montre à quel point Lerone Murphy, c'est un prospect à prendre au sérieux. Puis c'est une victoire très inattendue, là, ça, selon moi. Fait que j'avais pas le choix de le mettre dans mon top 10. Au numéro 8, une de deux victoires de Drew Dober, celle-là contre Alexander Hernandez. On parlera peut-être plus de Drew Dober quand je vais parler de son autre victoire surprenante, parce qu'il y en a deux sur la liste. Au numéro 7, j'ai Alexei Oleinik, le seul unique qui a battu Fabricio Werdum. Je sais pas s'il faut que je donne le shout-out à Oleinik ici ou s'il faut juste que je shit sur Werdum pour sa performance dans ce combat-là, mais on sait que c'était pas supposé d'arriver de même, ça c'est sûr à 100%. Ensuite, au sixième rang, on a l'homme à la moustache, Timothy Johnson, qui s'est complètement réinventé et qui est allé battre Tyrell Fortuner, des meilleurs prospects heavyweight au monde, genre. Et ça, au Bellator 239. C'est pas mal, genre, la définition de genre d'affaires qui était absolument pas supposé d'arriver. Puis pourtant, c'est arrivé. Donc, c'est sur la liste. Au numéro 5, Glover Teixeira face à Anthony Smith. Autant pour la victoire que je pense la façon dont ça s'est déroulé. Là, je pense que tu disais que Glover battait Anthony Smith. Après ce qu'on avait vu d'Anthony Smith dans ses title fights puis tout, je pense pas que personne s'attendait vraiment à ce que ça se déroule. La façon dont ça s'est déroulé, c'est-à-dire Glover qui gagne des 18 presque à toutes les rondes puis qui pète toutes ses dents dans sa gueule. Fait que c'est ça. Au numéro 4, à saveur canadienne, cet upset, ben c'est Derek Minner face à TJ Laramie. Ça me fait chier là, de reparler de ça encore parce que c'est tellement un bad loss. Là. C'est tellement un loss que tu veux pas sur ton record le perdre par guillotine contre Derek Minner au premier round. Car c'est genre, c'est la seule victoire qu'il y a sur sa fiche. Là. Le gars, il a comme plus que 10 défaites pro avant de rentrer dans l'UFC. T'as ramassé ça sur short notice. T'es supposé de se pointer là, se faire péter à gueule 2-3 fois, se faire crisser dehors. Puis il est là avec un UFC win face à TJ Laramie. Qui a pratiquement tout fait pour se crisser la tête dans ce guillotine-là. Là, si tu
il est tombé dans son aisselle.
Ah ouais, non, c'est ça. Là. Puis c'est quasiment pas si aisé. Attends un peu, je vais remettre ma tête exactement à la bonne place. Pour que... ouais, t'es bon, t'es-tu prêt de le gros? Bon, vas-y, fais-la ta guillotine. Là, fait qu'en tout cas, super bad loss, mais ça devait jamais arriver de même. Je pense que même l'UFC, quand il a booké Laramie contre Minner, pensait pas que Laramie allait perdre ce fight-là. Fait que c'est ça qui est ça. Au numéro 3 maintenant. Drew Dober, encore une fois, face à Nasrat Akparas. Puis je le sais que Hernandez est plus highly ranked que Nasrat Akparas, mais on avait déjà vu Dober battre Akparas de la façon dont il l'a battu avant qu'il batte Alexander Hernandez. Donc c'était comme une moins grosse surprise pour moi. Je pense que quand il a battu Akparas, c'est là qu'on s'est rendu compte que genre, Drew Dober, c'était plus juste le training partner de Justin Gaethje. Là. C'est lui aussi rendu un fighter comme excessivement dangereux et puissant et solide dans la division 155 livres. Puis je pense que c'est cette victoire-là contre Nasrat qui l'a vraiment mis sur la map et qui m'a vraiment surpris parce que Nasrat, moi, j'en entends parler par tout le monde du Tristar. Puis c'est comme le gars le plus craint dans le gym ou presque là, à peu près. Là. Puis il est bon, il est technique, il est puissant, il est rapide, il a tout pour lui. Puis il s'est rebattu après puis il a réussi à gagner. Puis tout. Fait que je sais même pas, tu sais, contrairement à Hernandez, qu'on a vu un changement de style de sa part, on a vu une baisse de régime qu'on n'explique pas trop de sa part. On n'a pas vu ça chez Nasrat, on a juste vu un gars qui est. Oui, il était peut-être un peu trop eager de se battre, fait qu'il a échangé, puis s'est mis à brawler avec Drew Dober, puis il s'est fait pogner. Mais dans son combat par rapport, on a vu Nasrat. C'est le Nasrat qu'on avait vu dans le combat d'avant. Donc, je pense qu'il faut donner plus de crédit à Drew Dober pour cette victoire-là, selon moi, que la victoire face à au chum Alexander Hernandez. Et mon numéro 2, ben, c'est Jan Blachowicz contre Dominic Reyes, là, que je pense que c'est un no-brainer pas mal.
Classique. Blachowicz, on se rappelle qu'il a complètement anéanti les côtes à Reyes avec des coups de pied terrifiants. J'ai envie de parler d'un petit peu de Glover Teixeira, moi, avec Smith. C'est une comparaison un petit peu douteuse, là, mais j'ai l'impression que ça revient un petit peu comme Sakai et Overeem. Tu avais Smith qui était le favori, puis t'avais Teixeira qui l'était pas du tout, puis ça a fini que ça a été l'inverse. Teixeira, je pense qu'il a réussi à amener à Smith au sol, puis il a enlevé toutes les dents de son palais. Fait que gros upset de mon boy Glover Teixeira, qui est un upset en général cette année en 2020. Là, il n'y a personne qui aurait pensé que ce gars-là aurait pu aller chercher d'autres wins. Puis il l'a fait un petit peu comme Alistair Overeem. Mais moi, mon numéro 1, tu viens de le nommer, puis c'est mon chum Blachowicz face à Reyes. Personne s'attendait à ça. Reyes l'a pris complètement à légère. Blachowicz l'a anéanti après 2 rounds seulement, je pense, sur un 5 rounds. Fait que c'était même pas proche. Il remporte la ceinture des, des poids mi-lourds, pardon. Minner face à la Marie, même chose. Je m'attendais tellement à beaucoup de TJ Lerami, fait que j'ai été bien déçu qu'il se fasse pogner en guillotine comme ça. Puis Joe Dober, évidemment Joe Dober, là. Mais mon numéro 1, Jan Blachowicz.
Yup, pour ma part, mon numéro 1, c'est peut-être un pic sentimental. Je pense que Blachowicz le méritait, mais moi, il y a une combattante en particulier que j'aime, je l'ai toujours aimée, puis c'est Roxanne Modafferi, man. Je l'aime, cette fille-là. Elle est cool, elle est le fun. En plus, je sais que ben, dans le temps qu'ils étaient ensemble, là, Barrio et Jade, ils avaient été s'entraîner à Vegas, puis elle avait été bien, bien fine avec Jade. Elle avait montré beaucoup d'affaires. Puis ça a vraiment l'air d'une bonne personne. Puis
100%, man.
Le disrespect, man, des oddsmakers face à quand elle affrontait Macy Barber, c'est... Tu sais, oui, Macy Barber, c'est la hot prospect. Pis, on l'avait pas vu là, contre une combattante du top 10 comme Roxanne Modafferi, qui est la fille qui s'est battue pour le titre initial, là, basically, là, dans l'UFC. Là. Fait que je trouve que le manque de respect était énorme. Puis Roxanne Modafferi, non seulement elle l'a complètement dominée, mais si je me rappelle bien, c'est même elle là, qui a causé la blessure qui a fait que Macy Barber a pas pu se battre pendant presque un an après. Là, fait que je pense qu'il faut y donner là, la palme à Roxanne Modafferi pour le upset de l'année. Autant selon les odds que c'était encore un autre cas de quasiment moins 1000 contre plus 800 que ça n'avait pas lieu d'être là, selon moi. Mais autant mathématiquement sur papier, c'est autant un gros upset que dans la cage en tant que tel, la façon dont le combat s'est déroulé, que c'est pas genre « Oh, c'est un huge upset mathématiquement, mais c'est un bon combat serré. » Non, c'était pas ça partout. C'était all Roxanne Modafferi. Le monde qui ont pensé que Barbara allait dominer, il était genre complètement dans le champ. Là.
Absolument. Fait, ils ont surestimé la new up-and-comer Macy Barber, puis ils ont underestimé la vieille garde de Roxanne Modafferi. Fait que non, bon choix mon Faber. Quelque peu sentimental, mais bien mérité pour Roxanne.
Donc là, on passe dans les deux catégories des pires. Là. On veut les pires combats, les pires décisions.
The worst.
Pires. On va commencer avec les décisions. Pour les décisions, j'ai fait ça là, quelques années. J'ai décidé d'inclure les arbitres, les fameux arbitres qui sont très, très bons là, pour fuck up le shit une fois de temps en temps. Donc cette catégorie est réservée, oui, aux juges, mais aussi aux arbitres, les gens qui sont les officiaux du combat, puis qui souvent viennent de par eux-mêmes complètement changer là, l'issue du combat, soit en donnant un scorecard de merde, soit en prenant une décision random qui fait que c'est genre les affaires random qui se passent. Quelques mentions honorables, parce qu'on le sait que dans une année, des décisions de merde, il y en a. Mes mentions honorables, c'est peut-être, je te dirais, des combats un peu plus low-key, genre des combats que tu sais, il n'y a personne qui va aller sur la place publique faire une manifestation pour dire oh, Justin Ledette s'est vraiment fait voler par les juges, il aurait dû battre Alexa Camour, tu sais. Mais ça reste que Justin Ledette contre Alexa Camour, c'est une astuce de décision de merde, puis Ledette, il aurait pas dû perdre, c'est juste que tout le monde s'en calisse. Fait que je l'ai dans mes mentions honorables, j'ai aussi Sabina Mazo contre JJ Aldrich, Jonathan Martinez contre André Ewell. J'ai malheureusement Lauren Murphy contre Andrea Lee. Je pense pas qu'elle méritait ce combat-là. Et Giga Chikadze contre Jamal Emmers. Je pense qu'Emmers aurait dû gagner moi, dans ce combat-là. Fait que, c'est bien mention honorable. Au numéro 10, un combat qu'on va malheureusement retrouver dans les deux catégories de worst. Mais c'était pas un bon combat. Puis c'était encore moins une bonne décision. C'est Carla Esparza face à Michelle Waterson. On va revenir pourquoi c'est un des moins bons combats, là, je pense, dans la prochaine catégorie. Mais en termes de décision, ça arrive dans beaucoup de combats de Waterson. Là, elle va chercher des takedowns, mais elle fait tellement peu de choses avec ses takedowns. C'est vraiment une artiste du lay and pray, Carla Esparza. Puis ça fait que des fois, c'est dur pour moi ou pour d'autres gens de donner des victoires. Quand oui, tu as beaucoup de ground control, mais tu n'as rien fait avec. Puis je pense que ça, c'est un exemple d'un genre de combat comme ça où beaucoup de gens ont cru que même si Esparza avait, oui, dominé positionnellement une bonne partie du combat, Michelle Waterson avait probablement plus essayé de choses pour gagner ce combat-là que Carla Esparza. Puis moi, c'est ça que je pense aussi. Donc, c'est pour ça que je le mets dans les pires décisions. Ensuite, Song Yadong contre Marlon Vera. Une mauvaise décision qu'on oublie peut-être par le fait que le combat était complètement sacoche, mais quand même pas une très bonne décision. Au numéro 8, c'est Magomed Ankalaev contre Ion Kutelaba. je dirais que on le donne au ref, mais j'ai quasiment envie de donner cette palme négative-là à Ion Cutelaba, qui a tellement bien réussi son imitation d'un gars qui est knock-out sur ses pieds que même l'arbitre l'a cru qu'il était knock-out. Quand clairement, il l'était pas pantoute, on s'en est rendu compte quelques instants après que le combat ait pris fin, mais genre peut-être que ton imitation était un peu trop réussie, mon Ion, parce que le combat a été arrêté malheureusement pour toi.
Même son corner, il aurait pu dire d'arrêter de niaiser un petit peu. Là.
Oh ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a plusieurs, c'est pas 100% sur le ref ça, mais la scène était tellement bizarre que j'ai pas le choix de le mettre là, dans le top 10. Ensuite, Dan Hooker contre Paul Felder. Beaucoup de gens qui donnaient ce combat-là à Paul Felder. Donc, je l'inclus au numéro 6. Un autre que j'ai mis dans mes combats de l'année. C'est bizarre comment j'ai comme trois combats que j'ai pris en considération comme les combats de l'année qui se retrouvent dans la liste des moins bonnes décisions de l'année. Mais Anthony Pettis contre Cowboy Cerrone à l'UFC 249, désolé. Je me rappelle que beaucoup de gens le scoraient ça pour Cowboy, ce combat-là, puis je suis d'entre eux. Au numéro 5, on en a parlé brièvement dans les comebacks, mais Ed Herman face à Mike Rodriguez. What the fuck, ref, man? What the fuck? Au numéro 4, on rentre dans les mauvaises décisions assez notoires. Dan Ige face à Edson Barboza. Oui, Ige a mis la pression. Il a fait des belles choses dans ce combat-là, mais je pense que c'était clair là, que Edson Barboza méritait la victoire dans ce combat-là, puis il l'a pas eu, puis c'est triste pour lui. Fait que j'ai ça au numéro 4. Au numéro 3, Claudia Gadella face à Angela Hill. Là, on rentre vraiment dans les combats que je m'explique mal, là, comment Angela Hill n'a pas gagné ce combat-là. Je pense que j'ai pas vu grand monde ne pas scorer ce combat-là ça, pour Angela Hill. Mais somehow, dans les peu de gens qui ont scoré ça pour Gadella, ben, il y avait deux des trois juges. Fait que, tough luck, mais c'est ça qui arrive. Au numéro 2, va probablement être le numéro 1 de beaucoup de gens. Dominic Reyes face à John Jones. Donc, à toi.
Yeah, man. Jones-Reyes, je le donne à Reyes, ça c'est sûr et certain, mais tu sais, ça reste Johnny Bones, c'était le champion, fait que c'est pas tant un vol que ça. Moi, j'aurais peut-être mis plus Yadong contre Chito Vera. Mon boy Chito avait de loin remporté ce combat-là. Chris Tognoni remporte la palme pour les pires décisions de l'année, mais ça fait en sorte que c'est peut-être pas les meilleures décisions, mais tu sais, ça fait en sorte qu'on a pu voir des combats durer un petit peu plus longtemps puis aller chercher un petit peu plus de niveau d'excitation. Hooker Felder, j'aurais peut-être eu tendance à le donner à Paul Felder, moi et tout, mais qui suis-je pour juger le travail des arbitres et des juges? Moi et tout, j'aime bien Angela Hill, fait que j'aurais donné la victoire face à la petite Claudia Gadella. Mais mon numéro 1, c'est le combat qu'on a parlé un petit peu, puis c'est Côté là-bas qui a été arrêté face à Ankalaev. Puis tu sais, c'est des gros bonhommes, là, je veux dire. Tu voyais bien là, que c'était une tactique de deux scènes, là, comme il était pas out, le gars, là, arrête pas ça tout de suite. Là. Puis je pense que c'est Chris Tognoni, si je me trompe pas, qui a fait ce combat-là.
Ouais, c'est tellement une bonne année pour lui que ça me surprendrait même pas, man.
Puis c'est le contraire de ce qu'il a fait. Les autres, ils laissaient se faire taper, puis lui, il est comme « Ah, t'étais de l'air un petit peu d'invap, on va arrêter ça tout de suite. » Mais ce qui a fait en sorte au moins qu'on a pu revoir le combat. Puis on a pu voir que Ankalaev était bien supérieur à écouter là-bas parce qu'il a fini à la fin du premier round. Fait que c'est ça. Chris Tognoni remporte la palme des pires décisions de l'année chez Carabine.
Ah, il a donné exactement ce qu'il voulait dans le rematch. Hein. Ion Cutelaba, genre, il a demandé juste de se faire donc out cold. Puis Chris, ouais. C'est vrai, ça qui est arrivé, man.
Ah ouais, man. Je sais que t'es meilleur que moi, mais je veux que tu me knock pour le prouver aux autres. Puis c'est ça qui est arrivé.
Yup. Donc, mon numéro 1. Je pense que c'est un combat qui est oublié pas mal quand on parle de pas bonnes décisions, mais moi et Grégory, là, je dois le dire, et Grégory, on n'était vraiment pas d'accord avec cette décision-là. Grégory, pour des raisons assez évidentes, probablement le fait que c'est un des plus grands fanboys que j'ai rencontré dans ma vie, puis que quand il a parlé de ses 3-4 combattants qu'il aime le plus, c'est le gars, il n'y a rien que tu peux dire, là, il est vendu, plus que vendu. Mais mon numéro 1, c'est Alexander Volkanovski face à Max Holloway, le rematch. Pour vrai, je pense vraiment que Max Holloway méritait de gagner ce combat-là. Là. Puis je l'ai réécouté, puis encore, là, je pense que Max Holloway a fait les ajustements nécessaires, puis pour vrai, genre j'aurais même pas été mad si tu donnais 4 rounds à 1 à Holloway dans ce combat-là, là, no shit. Fait que pour moi, c'est vraiment une mauvaise décision. Là.
Ça a-tu été unanime ou split decision, le 2?
Ah, yeah. Tu sais quoi, live, là, je m'en rappelle même pas, man. Mais,
pas bien grave, mais écoute, ça a été évidemment mon numéro un avec, tout le monde l'a dit, là, Big Max Holloway a remporté sa revanche face à Volkanovski. Fait que j'ai bien hâte de le voir, Max, face à Cater qui s'en vient, là, ça devrait être popé.
Donc, on passe au pire combat de l'année. Là, je veux qu'on aille vite pour cette liste-là, parce que quand on liste que ces gens-là ne méritent pas qu'on parle d'eux. Là.
Yeah, boy.
Donc, j'ai deux mentions honorables. Lando Vannata contre Yancy Medeiros, juste pour le fait que c'est pas le pire combat, mais c'était pas un bon combat. Puis, il me semble que c'est deux action fighters qui sont supposés te donner un esti de brawl, genre, puis ça n'a pas été ça. Fait que vous n'êtes pas fins, les boys. Mon autre mention honorable, Mike Perry contre Mickey Gall. À quoi on s'attendait vraiment à bout à ce combat-là, tu sais. Au numéro 10, un autre à quoi on s'attendait vraiment à booker ce combat-là, on a Diego Sanchez dans toute son œuvre face à Michel Pereira. Un shit show for the ages. Au numéro 9, Greg Hardy contre Maurice Greene. Greg Hardy. Au numéro 9, Cynthia Calvillo, Jessica Hyde. Déjà qu'on était mad que ce soit un main event, le fait que ce soit un combat absolument merdique, ça nous rend encore plus mad. Au numéro 7, Carla Esparza contre Michelle Waterson. C'est ça, on en a parlé, c'était décevant. As fuck comme combat. Numéro 6, Francisco Trinaldo contre John McDessie. Ça, c'est de la faute de l'UFC, là. Genre, Francisco Trinaldo, il vieillit, puis de plus qu'il vieillit, plus qu'il y a un slow pace, parce que quand t'as comme 43, 44 ans, pis t'es pas Yoel Romero, ben, un moment donné, faut que tu ralentisses un peu, si tu es capable de toffer tes combats. Puis on dit, ouais, on va prendre le vieux stalker vieillissant, avec son slow pace, puis on va le mettre contre le range kickboxer qui a le moins de range dans toute l'UFC, c'est-à-dire John McDessie. Puis là, ils vont rester là à range à se lancer un coup de poing aux 30 secondes. Puis ça va donner un show absolument merdique. Puis c'est ça que ça a été. Fait que j'ai ça au sixième rang. Au cinquième rang, pour la déception générale, là, mais moi, je le savais que ça allait pas être un bon combat. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas plus haut. Mais c'est Kamaru Usman et ses millions de foot stomps face à Jorge Masvidal. Au numéro 4, on a la maître de la quiche qui est de retour, Justine Quiche.
She's back.
Lucie Poudilova. Tu dis, ah, mais j'ai pas vu ça, ce combat-là. Chris va pas voir ça, le gros. L'amour du ciel va pas voir ça. Au numéro 3, j'ai Greg Hardy contre Jorgen De Castro. Because Greg Hardy.
Again.
Au numéro 2, dans la catégorie, à quoi tu t'attendais vraiment en bouquant ce style rematch-là? On a Holly Holm contre Raquel Pennington. Et puis, écoute, si tu te demandes 30 secondes, c'est quoi mon numéro 1? Ben, je vais t'en parler dans une minute, là, mais genre, big. On s'entend, là.
Tout le monde le sait, mon Faber, c'est pas un secret pour personne. Moi, j'ai été avec un que tu viens de mentionner, qui était ton numéro 5, mais que t'as passé vraiment vite au travers, fait que ça va me faire plaisir d'en parler un petit peu plus avec toi. C'est Usman face à Masvidal. Évidemment qu'on devait pas s'attendre à plus qu'il faut, mais tu nous connais, on a tout le temps le goût de voir des bonnes claques à gueule, pis on en a pas vu une pendant ce combat-là. Moi, j'étais un gros hype, tu sais, comme tu le sais, moi, c'est un des premiers combats dans lequel j'ai rembarqué dans la vague du UFC. Fait que je m'attendais à beaucoup de ça. Je sais que Masvidal a pris le combat à seulement 6 jours de préavis. Fait que shout-out à lui, man. Puis les footstomps de Usman, j'ai mal aux pieds pour Masvidal à ce jour encore. Puis Usman est loin d'avoir été chercher mon cœur en tant que nouveau partisan dans le game. Là, c'était pas un combat très excitant. C'était le main event en plus. Très décevant. Fait que ça, c'est mon worst fight of the year, mais ton numéro 1 est probablement mon numéro 2.
En effet. Et mon numéro 1, Israël Adesanya, Yoel Romero. Puis écoute, je pense qu'on
I love you, boy.
On sous-estime le fait que ce combat-là a eu lieu exactement après Wiley Zhang contre Joanna Jędrzejczyk. Avec moindrement qu'il nous donnait un spectacle moyen, on allait trouver que c'était la pire marde qu'on n'avait jamais vu de notre vie. Imagine qu'est-ce qu'on a trouvé quand on a vu ce combat-là. Où genre, il y a littéralement deux coups de poing qui se sont lancés, puis les deux sont venus de la part de Yoel Romero. Puis quand ils ont landé, ben, Carlis, ils ont fallu tuer Israel Adesanya, mais ils n'ont jamais essayé dans Lander 3e, le pauvre. Ok, garde. Ce fut ce que ce fut. Combat qui va passer à l'histoire, là, genre tellement que c'était bad. Là. C'est genre quand tu dis notoriously bad, là, Adesanya face à Yoel Romero. C'est ça qui fit cette catégorie-là. Fait qu'on arrête de parler de la marde, ça fait chier. On parle des bons moments maintenant, yeah. Les meilleurs moments de l'année, les moments qui nous ont fait du bien là-dedans. Qu'on était là, oh, tu sais, quand tu te sens tout bien, tout accompli, t'es genre, c'est que c'est hot d'écouter ce sport-là. Là, je viens de voir de quoi de beau, là, un grand moment. Fait que j'en ai 10. J'ai une mention honorable à l'extérieur de l'UFC, c'est Jesse Ronson. Qui allume Troy Lamson complètement puis qui passe une soumission dans le combat qui va ultimement l'avoir ramené à l'UFC, mais qui snappait tout son losing skid. Que, il me l'avait dit avant ce combat-là. Il dit, pour vrai, si j'affronte un des bons prospects sur la scène régionale, puis si je perds, ben, j'aurais pas le choix de prendre ma retraite. Puis on le sait tous que Jesse voulait au moins revenir dans l'UFC, gagner une fois. Puis il a réussi grâce à ce combat-là à obtenir cette chance-là. Fait que c'est pour ça que je mets ça parmi mes moments de l'année parce que moi, vous le savez, Jesse Ronson, c'est un de mes fighters préférés et ça depuis des années, depuis avant même que je le connaisse personnellement, c'est un de mes fighters préférés. Fait que à Star, je l'aime encore plus. Au numéro 10, un grand moment pour beaucoup de gens, excluant moi, si vous avez vu le vidéo, là, je pense que c'est le premier podcast ever, là, moi et Greg, mais c'est le retour de Conor McGregor à l'UFC 246 face à Cowboy Cerrone. C'est ça qui commençait l'année. Puis, écoute, moi, quand ce combat-là est arrivé, on a fait tellement de puffs, je suis tellement peu hype parce que c'est tellement pas un fight, là, ça, dans ma tête. Puis, on s'en est rendu compte assez vite que c'était pas un fight. Là.
Est-ce que
c'est
arrangé, tu penses?
Non, c'était pas arrangé, mais c'est comme le plus arrangé que tu peux retrouver en MMA, là.
Yeah!
Tu sais, c'est genre, on va pas fixer un outcome, mais on va s'assurer de te donner le match-up qu'on sait que tu perdras pas contre lui, là. C'est un match-up tailor-made pour que tu gagnes au premier round de façon spectaculaire. Tout en y donnant pas un no-name méconnu de tous, là. Mais ils ont cherché dans leur liste de bons noms fiables, puis... Ils ont dit c'est lequel là-dedans que Conor bat le plus facilement. Ah, c'est probablement Cowboy. Fait que t'es un Cowboy. Bravo, t'as gagné un McGregor fight.
Ouais, Cowboy était bien. Cowboy le savait qu'il allait se faire lui-même, mais il était down parce qu'il a vu le signe de pièce au bout du chèque. Fait qu'il a dit let's go.
Oh, et puis il le mérite, tu sais. Fait que genre, pour cette raison-là, là, mais bref, c'est ça.
J'aurais vraiment pensé qu'il aurait donné une meilleure opposition à Conor. C'est sûr que c'est un slow starter, Cowboy. Ouais,
le slow starter le plus notoire ever, c'est probablement, ça. Contre le fast starter le plus notoire ever.
Exact. Fait que...
Donc, c'est ça. Ça n'allait jamais bien aller. Au numéro 9, c'est l'upset de Blachowicz face à Dominic Reyes. Au numéro 8, c'est l'upset de Dominic Reyes face à John Jones, même s'il n'a pas gagné, pour vrai. Pendant ce combat-là, tout le long, j'étais « Chris, man, John Jones est en train de perdre, les boys. Ouais. Je comprends rien, man. » j'ai pas le choix de mettre ça, cette liste-là.
Mm-hmm.
Au numéro 7, c'est les deux victoires en 10 jours de Khamzat Chimaev sur Fight Island, à l'UFC Fight Island 1 et l'UFC Fight Island 3. Fait, c'est vraiment lui qui a gagné là, ce premier passage-là sur Fight Island. Quand l'UFC est parti de Fight Island, il y avait un nom là, dans la bouche de tout le monde, puis c'était lui. Fait que,
yeah.
Pas le choix de mettre ça dans les gros moments de l'année. Au numéro 6, c'est Israel Adesanya face à Paulo Costa, la façon dont il te l'a démonté, puis il te l'a dry hump à la fin pour lui rajouter l'insulte à l'injure. C'est du grand easy, puis c'est pour ça qu'on l'aime. Yeah. Autant il nous a déçus face à Romero, il s'est racheté 1000 fois face à Costa. Au numéro 5, des moments de l'année, encore Khamzat Chimaev face à GM3, face à Jerome Mearshart. Comment qu'on comprenait rien quand c'est arrivé ça. Puis avec rétrospective, les gens peuvent dire il était même pas ranké, il était pas si bon que ça. Mais GM3, là, vraiment un meilleur fighter que Reese Mickey puis John Phillips. Là. T'sais, c'était comme passer de, selon moi, de des combattants qui sont basically pas UFC level à quelqu'un qui est UFC level, qui est prouvé que oui, c'est un combattant de milieu de division, mais GM3, là, il a battu des bons combattants, il a battu Deron Wynn, il a battu pas mal de monde, puis genre le fait que Khamzat le détruise de même en un punch, c'est absolument incroyable. Donc j'ai ça comme mon cinquième meilleur moment de l'année. Le quatrième meilleur moment de l'année, c'est Wiley Zhang contre Joanna, là, la madness complète de ce combat-là en général. Au numéro 3, ben, vous comprendrez que le moment de l'année, c'est une catégorie qui est quand même personnelle. Là, c'est comme le moment qui m'a fait le plus capoter. Fait que moi, évidemment, que le retour à l'UFC de Jesse Ronson et sa victoire contre Nicholas Dalby, c'est très, très haut dans ma liste. Au numéro 3. Et au numéro 2, Ben, c'est mon boy Barrio. Là. C'est plus une victoire aujourd'hui, mais Barrio qui a sa première victoire dans l'UFC puis qui réussit à prouver à tout le monde qu'il est capable de gagner à ce niveau-là. Peu importe ce qui est arrivé après, moi, pour moi, c'est un grand moment de l'année. Puis,
un finish?
Un moment dont j'étais vraiment fier parce que Barrio, man, peu importe ce que le monde dit, ça va toujours être mon boy, ce gars-là.
Power bar, baby.
Oh yeah.
Ben, de mon côté, mon Faber, mon moment de l'année, j'en ai plusieurs, j'ai des mentions honorables. Moi, j'ai bien aimé le retour de Connor, évidemment, mais j'ai trouvé ça drôle quand il a pris dans ses bras la grand-mère à Cerrone et qu'elle avait l'air de triper sur lui ben raide. Ça, c'est un de mes moments préférés de cette année. Easy qui smoke Paulo Costa, j'ai adoré aussi. Chimaev, bien évidemment. Un de mes moments préférés de l'année, c'est le knockout de Buckley sur Kasangana. On peut pas citer... On était le combat de Moreno puis Figgy, c'était incroyable. C'est avec un moment de l'année. Mais mon number one, parce que je ne l'ai pas mis comme combat de l'année, mon moment de l'année, c'est Wiley Zhang face à Joanna Jędrzejczyk. Parce que c'est le meilleur combat féminin qu'on a vu de notre vie. Puis ça rentre dans la meilleure catégorie des combats qu'on va avoir vu, peu importe le genre. Deux guerrières, c'est complètement des guerrières. C'est peut-être un peu le déclin de Joanna Jędrzejczyk qu'on a vu, puis la montée de Wiley Zhang. Fait que moi, c'est mon moment de l'année. Deux femmes qui nous ont montré qu'ils savaient se battre.
Oh yeah. Mon moment de l'année, c'est Khabib qui prend sa retraite. Genre, le quand il a gagné son combat, le moment super là, qu'il s'est mis à pleurer. Puis c'est vraiment, tu vois que toutes les émotions, toute la merde qui est arrivée dans le lead-up de ce combat-là, le gars, il était ultra blessé, il venait de perdre son père. T'sais, il a comme fait une promesse que, tu sais, j'ai aucun doute dans ma tête, puis c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui, que Khabib voulait finir sa carrière à 30-0. Ça a toujours été ça le plan. Mais à cause de sa mère, de la mort de son père, tu comprends, il a dû prendre la décision d'arrêter ça, peut-être un combat avant qu'il voulait. Puis genre, quand il a finalement réussi à battre Justin Gaethje, puis là, genre, comme toute l'émotion, tout le poids qu'il avait ses épaules a tombé, puis son speech après le combat quand il annonce que c'était son dernier combat, puis la manière dont il a fait ça, c'est mon moment de l'année. C'est vraiment ça prouve genre que le gars s'arrête un grand champion, tu sais, jusqu'au bout. Puis vraiment, autant les gens vont parler de GSP comme étant un personnage super honorable puis tout, je pense que on peut dire la même affaire pour Khabib. C'est sûr que les deux ils ont leur côté, tu sais, comme on s'entend, j'ai des petites rumeurs, c'était là sur GSP, là, que oh, je ne veux pas en rentrer là-dedans, là, mais c'est déjà arrivé, ces petites rumeurs-là. Khabib, ce que le monde y reproche, c'est peut-être comme son association avec Ramzan Kadyrov, des affaires comme ça, mais je ne veux pas vraiment rentrer là-dedans. Là. C'est sûr que quand le dictateur de la Tchétchénie rentre dans ton gym et décide qu'il va te financer, tu peux-tu vraiment dire non, genre, puis dire de décoller. En tout cas, d'autres affaires que peut-être qu'on aime moins, mais je pense que dans la cage, en tant qu'ambassadeur pour le sport, en tant qu'athlète, Khabib, ça a toujours été un grand homme, un homme respectueux. Le seul moment que c'est devenu non respectueux, c'est contre Connor. Puis, tu sais, j'en ai parlé genre le moment après le combat contre Connor reste un de mes moments préférés de l'histoire des arts martiaux mix, même si en théorie c'est pas bon pour le sport, genre de voir le monde qui saute à pieds joints dans la face après le combat. C'est comme...
Dans face à Dylan Danis.
Ouais, surtout dans face à Dylan Danis. Ça, c'est ça qui rend le moment encore plus délicieux, selon moi. Là. Mais, tu sais, non, le fait que j'ai l'impression que dans ce moment-là, genre, le bien a gagné contre le mal, genre.
Yeah, man.
Les intimidateurs, ils ont perdu. Genre, Connor, qui est allé vraiment trop loin là, dans son talk pour le combat contre Khabib, c'est fait comme un peu redonner, genre, de la justice, genre.
Le
comme...
karma, baby.
Oui, pour... c'est venu sous la forme de 3-4 Russes qui sautent la cage pour le pognon à gang, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme des fois dans la vie, quand tu vas trop loin... Et puis tu vas plus loin que le combat, il y a des répercussions qui vont arriver. Puis je trouve que ça, c'était genre super poétique de la manière que c'est arrivé. Là. C'est comme ça qui arrive dans la vie des fois quand tu fais des affaires, il faut pas que tu fasses genre tu reçois ton karma puis tu le reçois en double des fois.
Devant la moitié de la planète en plus.
Ah ouais, c'est ça, devant le plus grand nombre de gens qui ont écouté le sport ever. Genre, ben c'est fait que c'est ça qui arrive.
Yeah,
donc, mon moment de l'année, c'est Khabib qui tire sa révérence du sport après sa victoire contre Justin Gaethje. Ça nous mène à la performance de l'année. Puis je me rends compte, j'ai même pas mis Khabib contre Gaethje dans mon top 10. Faudrait que je le rajoute, tu le sais. Je pense que je vais mettre ça. Je vais le mettre au 10e rang. mets-tu au 10e rang. Avant ça, j'avais quelques mentions honorables. J'avais évidemment Drew Dober contre Nasrat Akparas. J'avais Marc-André Barriot face à Oscar Piechota. J'avais encore une fois Drew Dober face à Alexander Hernandez. C'est deux huge performances là, pour Drew Dober. Et le chum Bryce Mitchell face à Charles Rosa. Oui, il était très impressionnant contre André Fili. Mais en rétrospective, j'ai l'impression qu'après ce qu'on a vu contre Charles Rosa, c'est un peu moins surprenant ce qu'il a fait contre André Fili. Fait que je mets la performance contre Charles Rosa comme celle qui m'a vraiment ouvert les yeux là, quant à Bryce Mitchell et son potentiel pour le futur.
Sauf qu'il n'y avait pas ses camo shorts face à Charles Rosa.
Non, c'est ça. Ben, fait en plus, je pense qu'il faut qu'on lui donne un prop supplémentaire pour ça parce que clairement contre Fili, il y avait le power là, des camo shorts qui rentraient dans lui pis tout. Fait que ça lui donnait ça donnait pas différent, tu sais.
Yes, sir.
Donc, OK, les performances de l'année, comme j'ai dit, numéro 10, je vais mettre Khabib face à Gaethje. Au numéro 9, Brandon Moreno face à Davison Figueiredo. Même si ça a été un draw, je pense que c'est Moreno là, qui a causé ce draw-là.
Mais la
déduction de points aussi, mais bref. T'sais, la performance est incroyable d'arriver contre le champion qu'on se dit ça va peut-être être un champion dominant, t'sais, comme Mighty Mouse ou comme Seudo aurait pu l'être, puis qui arrive là, puis qui passe à ça de le surprendre parce que pousser avec la belt, c'est genre énorme performance. Numéro 8, Gilbert Burns face à Tyron Woodley. C'est tôt dans l'année. Là. Ça, c'est une des premières cartes qu'il y a eu sans partisans. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette performance-là de Gilbert Burns. Il a commencé l'année comme s'il allait être le Fighter of the Year. Puis finalement, il a comme un peu disparu là, avant la fin de l'année. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier son début d'année. C'est incroyable. Au numéro 7, Calvin Kattar face à Jeremy Stephens. Au numéro 6, c'est McGregor face à Cowboy. Au numéro 5, j'ai Blachowicz face à Dominic Reyes. Au numéro 4, Figueiredo face à Benavidez, le deuxième. Le premier, il y a eu du bon back and forth, comme on a dit. Le deuxième, c'est une volée. Les Tchekol, ça a rien. Il a montré c'était qui le champion, puis c'était qui pas le champion. Puis ça,
il a make weight en plus.
Ouais, puis il a make weight. C'est assez incroyable. Au numéro 3, Izzy face à Paulo Costa. On en a parlé des moments de l'année. Genre de revenir d'une performance merdique. Comme il y a eu face à Yoel avec une performance de la sorte, c'est assez incroyable. Et au numéro 2, écoute, je vais changer de rette là, je vais le faire, j'ai pas le choix. Au numéro 2, c'est Wiley Zhang et Joanna ensemble à l'UFC 248.
Yeah man, let's go. Pour moi, encore une fois, on a pas mal les mêmes. Charlotte à Powerbar, grosse performance face à Piechota. Drew Dober, évidemment. Moi, mon numéro 1, ça reste Brandon Moreno face à Figueiredo. On se rappelle que les deux s'étaient battus, je pense, 3 semaines, gros max, avant sur la même carte. Puis Brandon Moreno avait affronté Brandon Royval. Gros combat intense, seulement un round, mais il s'était quand même fait bien cogner, je pense. Brandon Royval est un de mes fighters préférés. Fait que, yes, Charlotte à Moreno, je pensais qu'elle allait se faire complètement anéantir par Figueiredo. C'est sûr que Figueiredo avait l'air d'éprouver certains problèmes, il s'est ramassé à l'hôpital un petit peu avant, il y a de la problème avec le weight cut pis tout, fait que, selon moi, Moreno l'avait gagné, ce combat-là, avec la déduction de points. Sans déduction de points, je sais pas, là, mais avec un point en moins, là, c'est sûr que Brandon avait grosse performance. Mon gars, tu sais, même juste au weight-in pis au face-off, là, quand tu voyais les deux ensemble, là, tu sais, on aurait dit, tu sais, c'est McLovin face à un tueur, là, des ruelles du Brésil, tu sais.
Avec Joel de 125 livres, là.
Je donnais pas cher de la peau à Brandon, puis man, c'était un des combats de l'année. Là. Fait que gros shout-out à Brandon Moreno, des Assassin Baby. C'est ma performance de l'année.
Yup. Bon, comme je vous ai dit, j'ai changé. Là. C'était mon numéro 2, mais regarde, j'ai pas le choix de le remettre au numéro 1. J'ai eu au numéro 1 pour la majorité de l'année, puis écoute. Je pense que c'est la performance de l'année, c'est la performance qui nous a ouvert les yeux. Puis c'est la performance qui nous a fait penser qu'elle allait battre Khabib. Là. Basically, c'est Justin Gaethje contre Tony Ferguson. Autant ça m'a fait mal au cœur, ce combat-là. Là. Autant ça a brisé tous mes rêves.
Puis le visage à Tony.
Oh, et puis le visage à Tony. C'est une performance incroyable, puis c'est la fin de Tony Ferguson, je l'ai dit avant son dernier combat, puis ça s'est confirmé malheureusement là, quand il a vu se battre contre Charles Oliveira, puis genre, je suis de plus en plus certain de ça aujourd'hui. Justin Gaethje a pris l'arme à Tony Ferguson. Là. Ses derniers bons moments que Tony avait nous offrir dans la cage en tant que combattant élite, ben Justin Gaethje, il a enlevé ça là, dans ce combat-là. Il a mis un terme à tout ça, puis c'est une performance absolument incroyable qui mérite d'être mis dans l'histoire, là, basically. Là.
Ouais, surtout que Ferguson était sur un 12 win streak, il avait de l'air imbattable. Justin Gaethje, oui, on savait que c'était un cogneur, mais tu sais, il avait perdu contre Poirier, contre qui d'autre qui a perdu aussi Gaethje. En tout cas, on savait qu'il n'était pas imbattable, contrairement à Ferguson, que tout le monde pensait qu'il était imbattable. Fait que yes, gros, bien mérité, Justin.
Yep. Fait qu'on passe à la nouvelle de l'année ou la storyline de l'année parce que tu sais, il y a des nouvelles, ça a été comme un moment. Là. Mais il y a d'autres storylines que tout au long de l'année ont continué à se développer puis à se transformer pour un moment donné de devenir plus grosse et plus grosse et plus grosse. Donc, j'en ai juste 5 ici, le petit top 5, vite, vite. Une mention honorable qui est une mention honorable à toutes les années, mais c'est l'issue de la paix des combattants. Là. Tant que les combattants n'auront pas un union, puis que les combattants n'auront pas une plus grosse part du marché, du pourcentage de revenus de l'UFC, je pense que ça va rester un topic d'actualité. C'est un topic qui réussit à repopper dans les news au moins 2 à 3 fois par année, sinon plus. Fait que comme étant un trending topic à toutes les ans, je le mets en tant que mention honorable, l'issue de la paix des combattants en MMA. Au 5e rang, j'ai l'arrivée de Michael Chandler à l'UFC et le fait qu'il ait quitté Bellator, là, c'était le visage de Bellator, basically, il a quitté la promotion pour faire le saut à l'UFC. Finalement, ça fait des années qu'on l'attend, fait que grosse nouvelle. Au 4e rang, ben, c'est Khamzat Chimaev en général. Oui, au Fight Island au début, mais comment qu'il est réussi à arriver puis qu'en l'espace de 10 jours, il monopolisait comme 90% des headlines dans le sport. C'est durant ma vue, en fait, il y a juste une personne que j'ai vu faire ça, puis c'est un Irlandais. Au numéro 3, c'est Fight Island. L'annonce de Fight Island, l'idée de Fight Island qui se développe jusqu'à juste être un esti de spot bâtard à Abu Dhabi qui est payé par le gouvernement de là-bas pour faire un genre de coup de publicité pour le tourisme. Mais pareil, en termes de combat, en termes d'action, je pense que c'est là qu'on a eu les meilleurs combats, c'est là qu'on a eu le moins de problèmes par rapport à la gestion du Rona. Fight Island, man, un gros topic cette année. Au numéro 2, c'était les champions. Les champions qui prennent leur retraite, Khabib, Henry Cejudo, c'est qui l'autre?
DC, t'es pas champion, mais...
Ouais, ben c'est ça, DC. Tu vois beaucoup genre de grands champions, de grands combattants prendre leur retraite, puis... Tu sais, dans le cas d'Henry Cejudo, c'est straight up. Je pense que c'est relié là, au Fighters Pay là, directement. Là, cette issue-là, là, je pense qu'Henry Cejudo ne veut pas prendre sa retraite, veut juste faire plus d'argent pour se battre. Puis il ne pense pas qu'il va être capable de le faire. Fait que tant qu'à ça, il est mieux juste ne pas se battre. Puis je le comprends très bien. Mais tu sais, de plus en plus de high profile de fighters qui prennent leur retraite au sommet. T'sais. Fait que je pense que c'est un gros topic là, cette année de voir autant de champions puis de combattants genre légendaires nous quitter pour la retraite.
Anderson Silva, man, en fait partie un petit peu. Là. Il était plus champion depuis très longtemps, mais ça a été quand même un des... Puis encore à ce jour, c'est peut-être un des... Pour plusieurs personnes, c'est leur combattant préféré de toute l'histoire du MMA. Fait que c'est une page d'histoire qui s'est tournée. C'est la fin d'Anderson Silva qui se fait péter le nez par Uriah Hall le soir de l'Halloween. Quelle soirée triste. Sinon, le retour, tu sais, le UFC, c'était la première ligue à revenir après l'arrêt obligatoire, si on veut, à cause du COVID. Fait que je pense que c'est UFC à Jacksonville, le premier, si je ne m'abuse. Mais shout-out à Dana White, man, quel travail incroyable. Ça, c'était le moment de l'année. Toutes les autres ligues sont là. Ben voyons donc, c'est un épais, Dana White, il réussira jamais. Puis un petit peu pour embarquer dans l'idée du Fight Island, même chose. Fight Island, ça a été un coup de génie. Fait que gros travail, man, gros travail du UFC. Évidemment, Israël Adesanya aussi est une belle histoire, je trouve. Son combat face à Paulo Costa était beaucoup médiatisé, pardon. Puis il y a beaucoup de gens qui pensaient que Costa allait pouvoir le péter, le petit Izzy. Puis Izzy a pris le dessus, puis il a pris l'ascendant. Fait que, yes, voici mes moments de l'année. Puis le numéro 1, évidemment, ben, c'est un no-brainer.
Mm-hmm. C'est le Rona.
El Rona.
C'est le Rona, man. Parce que, tu sais, gros, c'est comme en 2020, là, vous pensez que j'allais dire quoi comme nouvelle de l'année, Chris? Ça a chié notre année, autant au plan sportif, autant sur toutes les crises de plan. Genre, le Rona, ça a été l'aspect numéro un de toute la crise d'année. Fait qu'on n'en parlera pas plus, le fuck le Rona, mais évidemment que la nouvelle de l'année, c'est le Rona. Tout que, t'sais, autant l'arrêt que le recommencement, que tous les combats qui ont été annulés à cause de ça, que,
exact.
Y a des, que Fight Island, que l'UFC Apex, c'est tout. Tout ce qui est arrivé, ben, c'est clair 2020.
Ouais, Habib.
Crise de Rona, man. Fait,
yeah.
Ouais, on va y aller avec la breakout star de l'année, la révélation de l'année. Hein,
donc, oh yeah, terme. Baby.
On va y aller rapidement parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ces combats-là qui vont se retrouver dans notre liste des combattants de l'année. T'sais, fait qu'on va y aller rapidement pour ça. Mm-hmm. Mais j'ai un petit top 5 puis trois mentions honorables. Mes trois mentions honorables, c'est Giga Chikadze, Tanner Bowser et Drew Dober. Puis je pense que mon top 5, il est assez évident. On a Joaquin Buckley, on a Gilbert Burns, on a Kevin Holland, on a Davison Figueiredo. Puis au numéro 1, c'est évidemment Khamzat Chimaev.
Ah ouais, hein, t'as fait un petit late switch?
Petit late switch.
ouais, moi tout, j'ai beaucoup hésité avec les deux dont le nom commence par un K. Puis je vais avec Khamzat aussi pour le breakout star parce que le deuxième cas mérite le prochain trophée. Fait que c'est comme ça que j'ai fait mes affaires. Évidemment, j'ai un petit peu les mêmes que toi. Breakout Star of the Year. Joaquin Buckley, grâce à son coup de pied, mais je sais pas, il y a quelque chose qui. Ben, il nous a prouvé qu'il était bon, le petit Buckley, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus un feu de paille qu'on le pense. Mais bon, ça c'est. Je lance ça de même, là. C'est un joker. Sinon, Khamzat Chimaev est de loin. Figueiredo aussi. Grosse perf de Figueiredo face à. Au chum, le chum à Megan Olivi, que j'ai Benavidez, que j'oublie son nom. Fait quoi, ouais, Figi le mérite, mais c'est Khamzat Chimaev all the way. Devenu le meilleur ami à Dana White, s'y est éclaté Reese Mackey, éclaté Gerald Mitchard. Fait que breakout star of the year, le Suédois Khamzat Chimaev.
Yup. Comme on a dit, genre, depuis Connor, personne qui a réussi à s'attirer autant de praise, puis autant de médias, puis autant d'attention en si peu de temps. Fait que. Je pense que c'est pour ça que j'avais pas le choix de faire le petit switch de dernière
minute. Snatch everybody, bro.
Pour les combattants de l'année, un petit top 10. J'ai trois mentions honorables. Mackenzie Dern, Tanner Bowser et le Timothée des Timothées, Timothée Johnson. Trois victoires, aucune défaite en 2020, Tim Johnson. Le gars, il a réinventé sa carrière. Il va peut-être devenir champion heavyweight de Bellator dans pas long, le gros. Fait que, je pense qu'on n'a pas le choix de le mettre là. Au numéro 10, j'ai Joaquin Buckley avec une fiche de 3 victoires et une défaite en 2020. Sa seule défaite, c'est un combat short notice dans son entrée dans l'UFC face à Kevin Holland. Enfin, je pense pas qu'on peut vraiment le blâmer pour cette défaite-là. Comme tu dis peut-être un feu de paille. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire ça, mais genre définitivement plus un action fighter qui va nous donner des gros knockouts qu'un futur title challenger. Tu sais, je pense pas que ce gars-là, c'est un gars qui va devenir un top 5, un number one contender nécessairement, mais ça va être un bon action fighter qui va nous donner des gros knockouts, qui va nous donner des bons combats divertissants où ça frappe fort puis ça joue rough. Puis, tu sais, fait que je pense que c'est une très grosse addition là, au roster de l'UFC. Puis quelqu'un qui, après le knockout qu'il a fait cette année, est définitivement marketable. Là. Tu sais, genre moi, personnellement, où on en est live. J'aime mieux voir justement un Joaquin Buckley ou un Nico Price sur une carte que de voir un Nestin Mike Perry.
Fait que... Platinum. Ouais, puis tu sais, il s'est battu contre. Après son knockout, il a pété Beverly Hill Jesus. Là, fait que...
Ouais, puis tu sais, il a fait ça de la meilleure manière qu'il pouvait le faire. Là.
Ouais.
Basically, le gars, il a réussi à ne pas décevoir, même s'il revenait du knockout le plus spectaculaire de l'histoire du sport, basically. Là.
Exactement, man.
Donc, au numéro 9, c'est-à-dire, j'ai Glover Teixeira, pas le choix, là. Il y a juste deux combats. C'est sûr qu'il y a le moins de combats sur ma liste, mais, tu sais, des victoires contre Anthony Smith, puis, hey, c'est qui déjà l'autre qui a battu après? Pourquoi j'oublie? Thiago Santos, voyons, crise de mon gars. Ça a été genre remis 17 fois ce combat-là en plus. Hein. Je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier, mais, tu sais, des victoires inattendues là, de Glover
Teixeira. À 41 ans.
À l'âge qu'il a, qui s'établit probablement comme le number one contender dans cette division-là.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est plate pour lui que l'UFC décide d'y aller avec Izzy à la place de donner le title shot à Glover, qui est vieux, puis tu sais, il mérite son title shot. Puis tout ça, c'est un sujet de discussion pour un autre jour, mais
yep.
Huge year pour Glover Teixeira. Mm-hmm. Ensuite, Au numéro 8, quelqu'un que j'aurais pu mettre des breakout stars, mais je pense pas que ça a été une breakout star. Je pense que le monde ne le connaisse pas encore. Mais il y a quand même une fiche de 3 victoires et une défaite, puis il va se battre contre Dom fucking Cruz au début de l'année 2021. Fait que si vous le connaissez pas, vous allez peut-être le connaître après ce combat-là. Et si je parle bien sûr de mon boy Casey Kenny, qui est vraiment excellent comme combattant là, en général. Fait que j'ai ça au numéro 8. Au numéro 7, qui creep up dans ma liste de meilleurs combattants de l'année, étrangement, avec une fiche de 4 victoires et aucun revers en 2020, le Polonais Marcin Tybura.
Tu l'as mis là juste parce qu'il a pété ton boy Greg Hardy.
Ouais, ben tu sais, 4-0 dans l'UFC contre un bon niveau de combat. Je pense que t'as pas le choix de mentionner ça comme étant un des bons combattants de l'année. Ensuite, un autre gars qui est 4-0, Giga Chikadze. Je vais le mettre devant Tybura parce que même si je pense que Tybura a battu un plus gros niveau de compétition que Chikadze, ça reste un heavyweight. Puis je pense qu'un gros niveau de compétition à heavyweight, c'est à peu près la moitié des skills techniques que ça te prend pour gagner un fight dans le bas de la division en 145 livres. Mais aussi Giga, clairement, genre plus de star power, plus de potentiel pour le futur qu'un Marcin Tybura. Il a beau avoir gagné 4 combats là, en 2020, tu le sais très bien qu'à la seconde près que tu le colisses contre genre un Cyril Gane ou un Jairzinho va se faire melter en genre quelques instants. Là.
Ouais.
Ce qui n'est peut-être pas le cas avec Giga Chikadze, justement, qu'on n'a pas vu contre l'élite dans la division et qu'on a envie de voir ça en 2021. Fait que je le mets là pour cette raison-là. Au numéro 5, Hamzat Chimaev. Je pense qu'on en a assez parlé. Au numéro 4, Brandon Moreno, man. 2 victoires, aucune défaite. 1 combat nul. Combat nul qui est le deuxième meilleur combat de l'année. Que, comme on a dit, il aurait peut-être dû le gagner. Moi, je pense encore que Figueiredo méritait cette victoire-là. Mais tu sais, je suis d'accord avec le draw là, selon ma scorecard. Avec le point deduction, je pense que le draw, c'est le bon score. Puis le fait que Moreno a été cherché ce draw-là, c'est absolument incroyable. Fait que j'ai pas le choix de le mettre là. Au numéro 3, c'est Jan Błachowicz. Juste 2 combats, mais d'arriver et de battre Dominic Reyes de la manière dont il l'a fait là, pour devenir champion du monde. Un des champions du monde les plus improbables des dernières années, d'ailleurs. Fait qu'on n'a pas le choix de lui donner un gros shout-out pour ça. Et au numéro 2, j'ai Kevin Holland. 5 victoires, aucune défaite contre un niveau de compétition qui était de plus en plus solide à chaque combat. Et il n'est juste pas déçu. Puis il est passé de... Tu sais, quand je dis au début de l'année, moi, mon fighter nowhere, là, que personne connaît, mais qui est mon fighter préféré, c'est Kevin Holland. Puis à la fin de l'année 2020, ben Chris, tout le monde sait c'est qui Kevin Holland. Si tu écoutes le MMA, tu connais Kevin Holland. Fait qu'il est passé basically d'un no-name à un des combattants les plus regardés, les plus appréciés et les plus demandés dans l'UFC.
Oh yeah, baby. Puis moi, c'est mon numéro 1, c'est Trailblazer, c'est Kevin Holland, gros gars. 5 victoires en 7 mois. Il a commencé à se battre au mois de mai, il a fini au mois de décembre. Il n'a pas arrêté. Il voulait se rebattre le 19 contre Chimaev. Justement, ça aurait été malade. Ça aurait été le combat pour décider qui est le breakout star, qui est le fighter of the year. On ne l'a pas eu. On va peut-être l'avoir dans le futur, mais Kevin Holland est mon combattant de l'année sans aucune hésitation. Un gars qui est capable de te vendre des billets, si on sait que le UFC et Dana White aiment ça. Un gars qui a une grande gueule. Il n'a pas peur de parler en dehors comme dans le ring. Une technique, un striker hors pair, un reach de 80 quelques pouces. Il se bat sur son natural weight, en plus, dans le middle weight. Il pourrait descendre, il pourrait aller se battre à 170. Probablement qu'il va le faire à un moment donné, mais un maigre bonhomme pour les middle weight. Puis il y a 5 victoires, aucune défaite. Fait que let's fucking go. Kevin Holland, baby.
Yup. Puis ça me tentait de le mettre, mais ouais, je vais être honnête avec toi. Ça me tentait parce que c'est mon boy et je l'aime. Mais je pense que j'ai pas le choix. Parce qu'avec une fiche de 3 victoires, aucun revers et un combat nul. Je remets mon combattant de l'année à Figgy Smalls, Davison Figueiredo. Man, genre, le simple fait que j'ai l'impression que pour la première fois, à un bon moment, t'as un flyweight qui est marketable, genre, que, tu sais, on l'a vu, là, l'UFC 256, l'UFC 255, c'est pas les pay-per-views qui vont le plus se vendre. Mais si tu crises Davison Figueiredo en main event d'une grosse carte comme l'UFC 256, ben, le monde va l'écouter, puis ton main event, il va pas te décevoir. Alors, on l'a dit, ce gars-là, c'est un imbécile fini. Je pense pas qu'il est capable d'essayer de gagner un combat de façon intelligente. Il va prendre toutes les chances du monde. Il va kicker d'un ou, il va te coller ses doigts, il va grab la cage, il va tout faire à son pouvoir pour gagner. Il va rendre ça lettre. J'ai jamais vu un flyweight qui frappait fort de même non plus. Ça n'a aucun bon sens, puis tu sais, le fait que dans ces trois victoires, il y a deux victoires contre Joseph Benavidez, que oui, Joseph Benavidez, souvent, quand il perd contre quelqu'un deux fois. C'est pas mal. Quand il y a deux défaites contre Mighty Mouse, deux défaites contre Dom Cruise, deux défaites maintenant contre Figueredo, mais
ouais.
Un gars qui perd, genre, jamais, basically.
Non, c'est un solide combattant.
Il a Figueredo qui le bat deux fois, puis qui, à la fin de l'année, réussit à squeezer deux autres combats, dont une qui est, selon moi, une des plus belles soumissions de l'année, puis l'autre qui est le deuxième meilleur combat de l'année. Fait que le gars se retrouve avec un des plus beaux knockouts de l'année, deux des plus belles soumissions de l'année, parce que, tu sais, le Rear Naked Choke contre Benavidez, c'est peut-être pas une des plus belles soumissions de l'année, mais la façon dont c'était violent, puis ça s'est fini, ce combat, c'est un des beaux finishes de l'année. Tu sais, si on avait une catégorie, le plus beau club and sub de l'année, ça serait probablement un des numéros 1. Là,
yeah, bien d'accord, man.
Dans quasiment toutes les catégories, le gars réussit à presque être numéro 1. Je pense que c'est son année, je pense qu'il faut lui donner. Puis bravo à Figgy Smalls, Davison ben, Figueredo, qui est mon combattant de l'année 2020.
La question, j'ai une question pour toi, Faber. Yeah. Je ne pense pas qu'il va rester flyweight bien longtemps, moi, ce gars-là.
Non. Mais de toute façon, 135 livres, c'est rendu ma division préférée, là, je pense, dans MMA là, présentement. Fait que, contre qui que ça serait pas le fun? Davison contre Peter Yan, Davison contre Sterling, Davison contre Sandhagen. Nomme-les toutes, là, la 135 livres. Là, c'est comme
même à 135 livres, ça serait un des plus gros cognards.
Ben oui.
Il n'y a personne qui
a ça. Il y a du monde à 135 livres. Big.
C'est ça.
Imagine comment Davison peut t'en allumer. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. Là.
Yeah. Ah, il mérite la carabine d'or, mon chum.
Yup, exactement, man. Fait que ben c'était ça. C'était ça nos trophées de fin d'année, basically, man, pour 2020. Un gros merci, Max. Man, j'ai genre littéralement demandé ça aujourd'hui comme à. Je sais pas trop quelle heure, mais c'était short notice. Là. Mettons là que, si vous voulez être franc, là. Carabine, you answer le short notice call en esti aujourd'hui. Puis,
j'étais on wait, baby. Let's go.
Oh, oui, on wait, ready to go. Bien entraîné, man, prêt esti à te sortir ça sur un clin d'œil. Fait que, man.
Ça m'a fait plaisir, Faber, n'importe quand, buddy.
Hey, of course, man. Ça me fait plaisir, moi, avec, de te recevoir. T'es notre boy, notre grand contributeur, man. Allez checker, il a fait genre. J'avais tellement ça dans la tête qu'il fallait que ça arrive, puis tu l'as fait. Il a fait une compilation de toutes les carabines d'or qu'il a fait cette année. Ça, c'est une vidéo à écouter. Là. Je pourrais même le share sur la page, là, peut-être genre demain matin. Ben, j'essaie de passer un peu les posts. Là. Mais vous checkerez ça sur son channel YouTube. Abonnez-vous à toutes ces shit. Moi, mes shit, ben, sont en bas. Là, fait que j'ai pas besoin de vous les dire. Toi, shout out tous tes médias sociaux pis tout pour que les gens s'abonnent.
Yes, YouTube, man, that's the main thing, baby. Allez voir mes petites vidéos, des petites vidéos comiques. J'aime bien ça, avoir des feedbacks. Comment vous voulez appeler la nouvelle équipe d'hockey à Trois-Rivières? I need to know, baby. Sinon, allez me suivre sur Instagram, Maxime Carabine avec un K. Mais c'est tout, man. J'ai tellement hâte à 2021. La carabine d'or va revenir encore plus forte, esti.
Ben oui, puis c'est ça qui va arriver pour la semaine prochaine. Au podcast, on risque de revenir sur les nouvelles parce que comme vous avez vu aujourd'hui, on a parlé de rien, aucune nouvelle, aucun rien d'actualité de ce qui est arrivé. Fait que sûrement que moi et Greg, on va faire un bon petit recap là, des deux dernières semaines, puis on va se préparer tranquillement pour ben, le retour du MMA. Là. Il y a trois événements dans l'espace d'une semaine. Là, on a perdu Hamzat malheureusement, mais quand même des bons événements qui s'en viennent. Fait qu'on va se préparer pour ça. L'autre affaire que je voulais dire, je sais pas, j'en ai pas parlé avec Greg encore, mais I guess que c'est ça qu'on va faire. Ça va faire un an là, bientôt, c'est le 50e épisode aujourd'hui là, du iPoke Podcast. Je pense que le 52e, ça devrait coïncider avec le combat de Conor McGregor, que vous rappellerez tous, c'était notre premier podcast là, à Greg et à moi. Fait que je pense que pour cette semaine-là, il y a des chances qu'on ne soit pas live le dimanche. Genre, il y a des chances qu'on fasse vraiment ce qu'on a fait pour le premier podcast, c'est-à-dire que je débarque chez eux, qu'on fait un petit podcast ensemble, puis que la deuxième partie du podcast, c'est notre réaction au combat de Conor McGregor, comme pour un peu faire un throwback à notre premier podcast ever, vu que ça va faire un an qu'on a commencé le shit pis tout. Fait que c'est à suivre pour les prochaines semaines. Et puis, ben, crime. Merci encore une fois à Max. Merci à tous ceux qui ont été là ce soir. Je sais, c'était différent, là, tu sais, comme on n'a pas le même setup, j'avais pas mis overlay. On a changé d'account StreamYard. Puis moi, vu que je dors en dessous d'une rush, puis je joue trop à Among Us, ben, j'étais pas sûr. La semaine prochaine, on devrait avoir le setup initial. devrais-je dire. Et puis, ben là, comme vous avez vu, malheureusement, c'était pas live sur YouTube parce que je pouvais juste le mettre live à une place. Fait que je vais uploader la vidéo sur YouTube le plus rapidement possible. Fait que tout va être là comme d'habitude.
Moi, share ça, mon chum.
Yes, sir. Thank you, guys. Merci, Max. Merci à tous. C'était nos récompenses de l'année 2020. Puis comme on n'est pas sur le StreamYard, ben on n'a pas la toune. C'est-tu que ça me fait chier de ne pas avoir la toune de... Mais c'est ça. On va tous vous crisser nos doigts dans les yeux comme si on était John Jones.